l'équipe du soir, bonsoir. Ce soir, les Dogs ont mordu trois fois. Score final 3-1 donc contre l'Olympique de Marseille en ouverture de la 28e journée. Conséquence au classement, Lille est 3e et Marseille navigue à 10 points de Lille. Ce soir, il reste 6 journées pour la Ligue des Champions. C'est déjà acté. On en parle avec tous nos invités. Le président ce soir, c'est Raymond Domenech. Bonsoir Raymond Domenech.
Bonsoir. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort.
J'aime bien cette punchline. Bonsoir, président.
Mais je confirme. Hein.
Mais bien sûr, bien sûr. Bah, c'est enfin, factuellement. Le chef Chedard est dans la place. Bonsoir, Sébastien Tarrago. Elle était bonne, cette punchline. Hein.
Il a déjà été plus inspiré. Mais...
Oh non, non, celle-là, elle est. Celle-là. Attention, Sébastien. Un petit dernier arrive.
Ouais. Fragile, on m'a dit.
Il est habillé comme un boys band. C'est le boys band de l'équipe du soir.
Ah,
bon.
Ah ouais.
Monsieur Dossé, ouais. Bonsoir. Partir un jour, bonsoir.
Bonsoir.
Non, c'est ce petit style, Philippe Nikolic. Oh.
Apporte un peu de jeunesse ici sur le plateau.
Ah, d'accord, ok. Déjà, vous mettez le président dans la poche, c'est très bien.
Attends, il faut lui mettre un carton rouge.
Directement ?
Direct. Bon,
direct. Allez. Présentez l'information. Présentez. Voilà. Mathieu, évidemment, vous êtes accueilli. Voilà. On le mettra un petit peu après, ne vous inquiétez pas. Voilà, on vous retrouvera demain parce que vous officiez chez nous sur la Ligue 2. Il y aura un camp Bordeaux. De belles factures. Le Nabil Djellit est dans la place. Bonsoir, Mister Fenech.
Ouais, après un peu de jeunesse, un peu de style.
Non.
J'ai rien dit, hein. Je parle pas de.
Non, non,
je
non,
peux,
non,
je non, peux non, non, en rouge, je parle pas de. En rouge, je du cœur.
Non, c'est qu'un rouge par émission, président.
J'ai donc qu'un rouge.
Ah, bah, qu'un rouge. Bah oui, mais sinon,
par c'est. Voilà.
Ah oui, par émission, hein. Grégory Schneider, bonsoir.
Bonsoir, messieurs, dames.
Ça va ?
Oui, je tenais à remercier Mathieu Dossévit pour tout ce qu'il a apporté au foot valenciennois.
Ok. Ah, d'accord.
C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui a ramassé cette semaine.
Beaucoup de profondeur dans le jeu.
Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc Mathieu de Séville, à peine commencé, tout de suite incarcéré. Tanguy de Séville, on se passe parce qu'il va être bientôt 23h. Les images de la victoire de Lille contre l'Olympique de Marseille.
Oui, victoire 3-1 des Lillois au stade Pierre-Mauroy avec, vous allez le voir, cette erreur de relance de Luis Enrique. Jonathan David en profite, vient défier Samuel Gigot qui avait glissé au départ. Derrière, Gigot va faire faute. Pénalty pour les Lillois, Jonathan David va le transformer. Les Lillois vont réussir à faire le break grâce à Rémi Cabella, bien trouvé par Nabil Bentaleb. Oh, Lopez ne peut absolument rien faire. Les Marseillais vont quand même revenir réduire l'écart dans cette partie sur ce CSC de Ismaili. Et en fin de match, c'est finalement Gudmundsson qui va enfoncer le clou. Victoire 3-1 des Lillois. Quatrième défaite de suite pour les Marseillais. Les Marseillais sont 7e, les Lillois 3e à un point de Brest.
Dans cette présentation, au pas de charge, j'en ai oublié de vous donner les thèmes. Nous évoquerons l'homme du match. Quel est pour vous ce soir le MVP? L'homme, ou en tout cas le joueur que vous avez envie de distinguer. L'OM, adieu, c'est un. L'OM n'ira pas en Ligue des Champions cette saison. C'est acté ce soir. Ils sont à 10 points de Lille ce soir. Il reste du match. Faut-il redouter une fin de saison terrible pour la bande à Jean-Louis Gasset? Mais ce soir, on va entamer ce match avec ce résultat. Défavorable pour l'OM et favorable pour Lille. 3-1. Lille surclasse l'OM ce soir. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que vous êtes surpris. Habillage à la LOSC et on y va. Et on peut sortir Mathieu de ses. Merci beaucoup.
Merci,
voilà.
Merci, quand même.
Lille sur classe l'OM ce soir, est-ce que c'est surprenant? On y va. Monsieur Djellit, vous êtes surpris? Oui ou non?
Absolument pas.
Absolument pas. Monsieur Schneider.
Il n'y a pas de match.
Sébastien.
Surtout qu'on me demande deux.
Donc non, merci. quand même, vous posez quelques questions ce soir. Mathieu, non. Surpris?
Non.
Président?
Sur le match, non. Sur ce qu'on espérait de Marseille, on peut dire oui. Mmh. On espérait qu'ils aient un peu plus. Non, je dis sur le match, non.
Non, mais sur le match, oui, on a vu.
Mais
le match.
Je veux dire, dans l'évolution de Marseille, de ce qu'on avait vu, ce qu'ils étaient capables de faire, tu te dis. Même contre le PSG, ils font pas un mauvais match. Je veux dire, non, ils font pas un mauvais match. Ils ont tenté des choses. Moi, je les trouve beaucoup plus.
Ils font pas un mauvais match ce soir.
Non, ils sont cohérents. Il leur manque un potentiel offensif. Où ils sont là, je dis comment ils vont marquer des buts, quoi, c'est ça. Mais j'attendais mieux, je veux dire, dans ce qu'ils avaient mis en place, dans ce qu'ils faisaient, je me suis dit, ils sont moins capables de défendre.
Droit d'attendre,
voilà, tu
me
dis, c'est pas, vraiment, quelque part, c'est pas normal.
Ils étaient anormalement mauvais parce qu'ils avaient un entraîneur très mauvais. Ils sont redevenus une équipe
moyenne.
Ils ont battu des équipes mauvaises. Et puis dès que l'air s'est fait un peu plus rare, ils ont perdu les matchs.
Oui, mais dans le
donc
jeu,
c'est une équipe moyenne avec des joueurs moyens, avec un président moyen, avec un directeur sportif moyen, ils sont moyens.
Il y a un truc.
Donc, quand ils jouent contre une bonne équipe, bah, c'est fini, ils sont pas invités. Non?
Moi, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas de marge. Ils n'ont pas de marge. Il y a eu le levier avec le nouvel entraîneur, ce qui a marché, mais on voit que maintenant, c'est passé.
Et là, il faut qu'ils
trouvent justement des nouveaux leviers pour. Parce qu'ils n'ont pas de marge. Donc on voit s'ils n'ont pas ce petit supplément d'âme qu'ils ont eu sur la série de victoires.
Ils ont battu qui?
Ils ont battu. Ils ont enchaîné par le Shakhtar Donetsk. Après, ils ont fait Nantes, Montpellier et Clermont, un peu dans le désordre. Et Villarreal. Ils ont enchaîné 5 victoires consécutives. Et maintenant, là, on en a 4 victoires.
Non, mais Nantes, Montpellier, Clermont.
4 défaites. Juste, c'est pas rien, mais moi, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez retrouvé un peu de l'équipe qu'on critiquait, celle de Gennaro Gattuso, là, dans ce que vous avez vu ce soir?
Non, pas du tout. Il y a quelque chose, par rapport à ce qu'il a dit, je pense qu'il manque vraiment d'essence. Je pense qu'il manque vraiment de gomme.
Ah, ils sont fatigués.
Il manque de l'énergie, il manque des courses, il manque des
regards. Ils ont beaucoup de blessés aussi.
Donc ça se rétrécit. Donc je trouve que c'est plus tout à fait la même équipe, parce que c'est vrai que c'était des adversaires faciles, mais enfin ils mettaient un coup 5 buts, un coup 4 buts. C'était quand même une équipe qui avait un potentiel offensif à ce moment-là. Et je trouve qu'il manque d'énergie. Il y a quelque chose qui sur les côtés, ça manque de.
Le soufflet retombe un petit peu. On sent que ça.
L'euphorie redescend.
Pardon, mais je reviens moi sur ma comparaison entre l'OM de Gattuso, la fin de Gattuso et cet OM-là aujourd'hui de Gattuso. Après donc 9 matchs, je me demandais comment ils allaient marquer. Et j'avais également cette impression à la fin de Gattuso, moi. Là, ce soir, comment tu marques? C'est en plus Ismaili qui marque contre son camp.
Non, mais de toute façon,
une situation dangereuse. Mais
leur équipe, elle est facile à résumer. C'est soit Aubameyang, il marque, soit il se passe rien autour. En plus, ils ont perdu. Alors, c'est bien parce que c'est vrai qu'au début, il y a eu un peu un effet psychologique. Mais remettre les joueurs à leur poste, bah, normalement, ça suffit pas quand il n'y a pas d'expression collective et de cohésion. Puis il y a des faillites individuelles XXL. Je sais pas si on en parlera, mais à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Longoria, on a parlé très longtemps de Vitinha à 30 millions d'euros, mais Luis Enrique, je veux dire, il n'est pas titulaire en Ligue 1, nulle part ailleurs, il ne fait aucune différence. Et là, quand il faut aider son équipe, il fait des passes dans l'autre sens. Je termine. Un, ils sont dépassés. Deux, le plan de jeu, c'était de bloquer Zegrova parce qu'ils avaient vu qu'il avait mis le feu contre Lens. Ils ont rien proposé en deuxième mi-temps. À la première lacune défensive, le château de cartes s'est effondré comme arrière.
Je te trouve dur.
Ah bon?
Je trouve qu'ils ont bien géré le cas Zegrova en première période.
Oui. C'est ce que je viens de dire.
Mais donc, c'est plutôt positif quand même. Et que ils ont donné de l'énergie. Ils ont plutôt sur la première période, plutôt essayer de faire ce qu'ils peuvent. Ils sont moyens. Vous les jugez comme si c'était une bonne équipe. Ils sont moyens et ils ont plein de blessés.
Oui, mais
ce soir, ils m'ont pas choqué.
Non, mais
ils sont moyens.
Non, mais t'es dans la lecture de la saison et je suis plutôt globalement d'accord avec toi. Mais quand tu recontextualises un minimum, c'est l'OM. Je veux dire.
Mais attends.
Je donne quelques arguments. Je veux dire, sur le papier, alors le foot, c'est pas le papier. T'as quand même des joueurs de foot de qualité, t'as des internationaux. Deuxième, c'est la plus grosse masse salariale de l'histoire du club. Moi, je suis obligé de le prendre en compte.
Je
vais faire un peu comme Eric Blanc, quand il nous a parlé de Christophe Galtier à une époque. Moi, on m'avait promis la Paramount, tout ce que vous voulez avec...
Vous allez nous faire d'Ali Boul, là.
J'allais faire l'Ambel. On m'avait promis une super production. Avec l'OM, on est sur un court-métrage, tout simplement. Là, cet OM, c'est un court-métrage.
C'est mieux avec Eric Blanc.
Il a pas de pardon.
C'est pas moins bien.
Par rapport à ce que dit Seb, il y a quand même un truc.
C'est moins imagé.
T'as l'impression qu'à ce stade, ils donnent ce qu'ils ont à donner quand même.
Bah oui.
Ils trichent pas. Je veux dire, alors après, Harry, t'es catastrophique. Luis Enrique est azoré. Mais ils donnent ce qu'ils ont à donner à ce moment-là du film.
Non mais Harit,
tandis qu'avec Gattuso, tu pouvais quand même te poser la question.
Non mais là, franchement, honnêtement.
Harit aujourd'hui.
Gigot à la rue. Unai transparent. Luis Enrique, il n'existe pas. Je vois juste.
Gigot, il a peut-être une circonstance aidante. Il a un problème de clavicule. Bon.
Ouais. Non mais lui, on peut le mettre. Malheureusement pour lui, il paye.
Il devrait pas jouer.
Bon, il y a un constat à l'amiable. C'est Luis Enrique qui le met dedans. Mais bon, il gère quand même mal la situation face à lui.
Non, c'est Luis Enrique qui fait un mauvais choix sur le penalty.
Oui, mais
Non, il doit accompagner.
Voilà.
Je veux dire, il doit pas se jeter. Et il est David, il est fermé, il est côté fermé.
Oui, mais la passe de Luis Enrique, elle a mauvais joueur, mauvaise finition, mauvais truc. Et en plus, Gigot au début, il glisse, donc il a un temps de retard.
Mais on est d'accord.
Il est surpris.
La première faute, c'est Luis Enrique, c'est évident. Il donne le ballon à David. Mais après, quand il est en duel avec lui sur le côté, je dis, il doit pas se jeter dans ses pieds. Il doit juste couper la trajectoire du ballon. Il doit pas le contact, il sait qu'il va y avoir penalty.
Il doit pas être sur l'intervention, il doit essayer d'accompagner pour.
Mais quand commence ton action en retard, est-ce que tu es tout à fait lucide?
Ben, c'est là où un grand défenseur, et il reste lucide.
On peut pas dire ça.
À ce moment-là, tu.
Ouais, mais.
Quoi?
Un grand défenseur, il joue pas à l'OM.
C'est un défenseur moyen.
Bah oui, il est moyen.
J'ai l'impression que le moyen va arriver. On va lancer les notes dans quelques minutes. Vous allez nous mettre une pelletée de 5. C'est match moyen pour les joueurs.
Après, l'OM a peut-être gagné quelque chose ce soir. À défaut du match, ils ont peut-être un rôle maintenant qu'ils vont endosser jusqu'à la fin du championnat.
C'est quoi le rôle?
Bah, l'OM, c'est l'arbitre du championnat maintenant.
Ils sont contents.
Écoutez, on essaie de se rattraper à ce qu'on peut.
Non, mais
peut
du côté de l'OM.
Je les ai trouvés. Une analyse politique sur l'UMP quand ils avaient perdu les élections.
Oui, là, il faudrait que tu nous donnes les équipes qu'ils vont rencontrer et voir s'ils ont un lien direct avec la montée ou avec la descente.
C'est l'arbitrage.
Mais si on peut déjà savoir contre qui ils vont perdre.
Eh ben, donc Benfica, Marseille, Benfica. Mais moi, j'avais plutôt prévu ce thème-là pour la fin de saison. Mais voilà, on est là. La prochaine fois qu'ils vont goûter au championnat, donc c'est après cette double confrontation en Ligue Europa contre Benfica en quart. Il y aura du Toulouse qui marche plutôt bien actuellement. Il y a Nice qui va plus mal peut-être, en tout cas sur la phase retour.
Malgré le génie.
Il y a Lens, il y a Reims, des équipes du top 10. Ça finit par Lorient, ça finit par Loire. J'ai une stat à vous donner d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas fondamentalement surpris par ce qui s'est passé ce soir. 3 victoires de l'OM cette saison sur les membres du top 9, et donc 8e défaite de la saison sur un membre du top 9. Lille ce soir est 3e.
Tromperie.
Donc on reste dans le truc.
C'est tromperie sur la marchandise.
Non, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de match en fait. On a senti que Lille, inexorablement, a amené le match à sa vérité.
Est-ce que je peux mettre une petite nuance dès que ça a accéléré?
Oui, dès que ça, non, mais déjà en première mi-temps, on finit sur 0-0, mais c'est parce que Paul Lopez fait les 3 arrêts qu'il faut. Je veux dire, ils sont dominateurs, ils savent qu'ils ont le temps, ils savent. Moi, c'est la facilité avec laquelle ils les ont amenés à ça qui m'a plus interpellé. Il n'y a pas eu de match ce soir.
Ils prennent un but sur des erreurs individuelles. Ouais. Parce que le premier but, c'est la passe d'Enrique. Le deuxième, c'est le mauvais renvoi de.
Non, c'est Harit qui essaye de faire un geste.
C'est le deuxième qui essaye de faire un mauvais. Le troisième, c'est un renvoi dans les pieds à 20 mètres du défenseur. Mètres.
Ouais. Donc on n'est pas là dans une simple expression collective. Voilà, t'es moins bon, t'as des joueurs moins bons, tu perds les matchs.
Mais bon, c'est pas normal quand même, il faudra tirer un bilan un peu plus.
On a beaucoup parlé de l'OM, une équipe moyenne. On va parler d'une équipe, on va dire, un peu plus que la moyenne, c'est Lille. Lille, le début de match, c'est une petite réflexion que je me suis faite. Alors, on avait regardé le match, le derby du Nord, il y a une semaine, jour pour jour. J'ai trouvé que le début de match de Lille m'avait un peu surpris. C'était assez attentiste, voire un peu passif. J'avais bien aimé leur style « je prends à la gorge, lance ». Alors, non, peut-être que c'est un derby,
expliquez-moi. Ils n'ont pas voulu faire ça. Il doit y avoir des raisons. Il faudrait poser la question à Fonseca. Mais ce n'est pas qu'ils étaient dominés. C'est qu'ils étaient prudents. C'est qu'ils étaient…
Ouais, ils redoutaient l'OM.
Bah, ou comme s'ils essayaient de les prendre dans le dos. Je pense que
C'est plutôt ça.
Oui.
Ils voulaient les faire sortir un petit peu.
Les faire sortir et les prendre dans le dos.
Pour avoir des espaces. Ils l'ont fait d'ailleurs 2-3 fois quand ils ont construit avec Bentaleb au milieu. Ils ont réussi à trouver des espaces avec des boulevards. Après qui se sont ouverts, ils auraient pu être punis encore beaucoup.
D'ailleurs,
plus.
Cette équipe de Lille est assez marrante parce que je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais elle s'adapte beaucoup. Qui définirait vraiment le style de jeu de Lille cette saison? Ça change un peu, tous les 3 mois, tu as l'impression que c'est une autre équipe.
Ah, ça, c'est bien quand ça marche, parce que si tu fais ça et que ça ne marche pas, on va dire aussi que c'est
toujours. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je constate simplement. Vous racontez que. Contre Lens, ils les ont pris à la gorge.
Un peu, mode derby.
Donc là, c'est très différent. Donc je pense que vraiment, c'est une équipe qui s'adapte totalement à ce qu'elle a envie de faire le jour du match contre tel adversaire.
Et elle a progressé quand même dans la maîtrise des fins de match. C'est une équipe qui est un peu frustrante, qui se faisait souvent reprendre. Et là, sur la dernière ligne droite, enfin, au moment où le sprint se lance, elle a l'impression qu'elle maîtrise un peu mieux, encore que... Elle prend quand même un but gaguesque qui aurait pu la mettre dedans, mais c'était tellement faible en face, tellement faible, que quand ils ont remis un coup d'accélérateur, ils les ont terminés.
C'est pas faible, c'est moyen.
Moyen faible. Mais j'ai trouvé ça en deuxième mi-temps faible.
C'est beaucoup plus méchant de dire moyen que faible.
Voilà. Au moins j'aurai appris quelque chose et je vais partir peut-être un peu plus intelligent.
Mathieu, vous jugez comment ce style de Lille, c'est un style en adaptation? Moi j'aime bien les voir jouer, je trouve quand même.
Moi je suis d'accord, il y a du panache, ça va vers l'avant, c'est agréable. Il faut un peu penser à Lens l'année dernière, ça calcule pas trop.
Tu trouves?
Ouais, non, je trouve ça, surtout avec Zegrova qui est toujours un peu la percussion, le facteur X.
Mais, c'est l'épice.
Moi, j'ai... Non, j'aime bien, ils sont vraiment agréables à jouer.
Ouais, bah, ouais. Sébastien, vous faites l'amour.
J'écoute. Mais moi, je trouve l'analogie avec Lens difficile à situer pour
fait
moi.
Vont... Moi, c'est ce que j'aime, c'est le fait qu'ils
ça ouais, mais ils pas trop tout le temps, justement.
Ils sont plus attentistes que Lens. Ils sont à la limite plus calculateurs. Parce que là, dans leur jeu, tout est jeu de positionnement. C'est-à-dire les décrochages de David sur les côtés dans l'espace où il n'y a personne qui les ont surpris. Haraldsson qui vient à chaque fois dans l'espace pour retrouver Ben Taleb. Ils ont des schémas construits. Lens, on a l'impression que ils y vont, c'est à l'énergie. Passe des trucs, il y a plus d'intensité. Eux, il y a plus de calcul. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Non, mais il y a plus de recherche, de schéma, de jeu.
Du Lens de la saison passée.
Non, moi aussi, c'est plus foutraque que du Lille de cette saison.
Oui, puis il y a une équipe type qui se dégage du côté de Lille. Non, mais depuis un moment, quand même. Ouais. Ça a l'air de rien. Mais c'est important, quoi. Avec des valeurs sûres, quoi.
Mes amis, juste, chers téléspectateurs, vous venez peut-être de zapper sur l'équipe du soir. On est en train de débriefer la belle partie lilloise contre l'OM. Lille gagne 3-1. Vous venez de zapper. À mon avis, vous avez dû voir le succès des Bleus d'Hervé Renard face à l'Irlande. 1-0. Image, quelques questions, ça, dans quelques minutes. Vous patientez pour prendre la parole. Non, à vous, Greg.
C'était juste un petit truc sur Zegrova. En fait, je trouve que le secret de cette équipe, c'est le côté droit en général, en fait. J'aurais du mal à enlever Thiago Santos de l'équation Zegrova. Mm-hmm. Je trouve qu'ils remuent, ils permutent, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de... Et je trouve que Thiago Santos fait beaucoup de bien à Zegrova. Mm-hmm. Donc il faut peut-être, plutôt que de se fixer, comme on se fixe sur Dembélé, il faut voir si c'est Dembélé et Hakimi qu'il faut juger ensemble. Je trouve que les deux, vraiment, c'est quand même
un Dembélé sans Hakimi, c'est pas mal aussi. Mm-hmm.
Oui, mais c'est mieux avec. Puisque je trouve que ça donne une impulsion, un dragster.
Il a beaucoup progressé Zegrova depuis l'année dernière.
Oui, tout à fait.
En maturité, dans son jeu, c'est...
Dans la finition.
En quoi vous jugez des progrès de maturité? C'est plus ce soir, en l'occurrence.
De Zegrova? Non, c'est sur le fait de ses prises d'initiative, ses intentions. On voit qu'il est beaucoup plus investi. Il va directement, on voit qu'il y a moins de réflexion, plus à l'instinct. Quand un joueur offensif est à l'instinct, ça veut dire qu'il est épanoui, il est bien dans sa tête.
Bah, moi, Mathieu, j'ai vu où il allait peut-être éventuellement passer le cut, c'est qu'il ne joue pas toujours de la même manière. En première partie, il n'avait pas beaucoup d'espace. Il n'a pas forcé.
Il a ressorti.
Il a continué le jeu. Pour un mec de percussion comme ça, généralement, les gars peuvent s'entêter à faire toujours le même numéro. Je trouve que dans sa lecture, sa gestion de situation, je trouve qu'il est bien. Non, il joue dans le ton, il joue dans l'esprit du jeu.
Dire que là, il ne pouvait pas faire grand-chose, c'était tellement fermé.
Ouais, il y a des gars de rupture comme ça.
Il a eu une situation sur l'action de but, où il s'est ouvert, et justement, là, il a manqué un petit peu de sérénité, parce qu'il avait tout pour vraiment l'ouvrir.
Ah, sur la 4e, à la 4e minute
en début de match, où il peut, voilà, sur la passe.
Il foire son contrôle ou pas?
Le contrôle lui reste dans les pieds. Et il ne le pousse pas assez, alors qu'il a toute la place pour le passer. Dès qu'il a un peu d'espace, il sait l'utiliser. Mais dès que c'est fermé, c'est vrai que Marseille avait bien fermé ce côté. Pas moyennement fermé, il avait bien fermé ce côté-là pour l'empêcher, mais ils se sont arrêtés là.
Moyennement fermé, ça. Je rebondis sur ce que nous disait le camarade Schneider en parlant de Thiago Santos. Vrai que c'est un joueur qui a des appuis, qui est tonique et tout ça.
Il est tout le temps à proposer.
Ouais, enfin, franchement, moi, je trouve aussi ce qui type aussi cette équipe, c'est qu'ils ont des vrais latéraux. Ismaili de l'autre côté, je veux dire, il fait le job.
Alors c'est pas,
plus que le job.
Les latéraux
qui pourtant n'est pas joueur de côté. Cabella, qui a quand même pas arrêté de provoquer balle au pied sur son.
Des latéraux.
Sur les côtés, c'est quelque chose.
Bon, après, c'est pas exactement le même style. Il y a plus de volume du côté de
Santos.
Oui, mais ça défend.
Qui défend avec sa vitesse. Il m'a pas l'air toujours très très adroit dans sa manière de défendre en un contre un. Ismaili, moi, ça me fait penser à ces latéraux hyper techniques là, qui aurait pu être un numéro 10, qui a peut-être été un numéro 10 par le passé.
Ouais, ça va être Marcelo maintenant.
Non, mais il ressemble c'est que des comparaisons, mais ça me fait penser à, je sais pas, à des joueurs comme Maxwell, celui qui a eu à Monaco, là, super bon, là, le gaucher qui a joué.
Caio Henrique.
C'est de ce style de joueur, en fait, Caio Henrique. C'est un joueur
moi, je ne le voyais pas aussi technique, notre Ismaili.
Bah, quand il a joué, il vient du Shakhtar Donetsk, du Dynamo, du Shakhtar. Ouais, bah là-bas, on les choisit un peu sur leur qualité technique, en règle générale.
Non, mais c'est pas ce qui m'a
Non mais c'est vrai qu'il a raison, c'est pas des qualités athlétiques phénoménales contrairement à Thiago Santos, mais
c'est pas d'acuité quoi. Défensivement, il est solide.
Ouais. Ouais.
Je veux dire, il est rarement battu, il est toujours bien positionné, ouais. On le voit pas beaucoup, mais ouais. Il se passe pas grand chose de son côté.
Bon, on a commencé peut-être à effeuiller l'album de Lille, à faire quelques cas individuels. Moi, je voulais vous poser la question, quel est pour vous votre MVP, parce que moi, je ne vois pas quelqu'un, vraisemblablement, ce soir, qui se détache, voilà, de distinguer. Bah, attendez, habillage MVP, s'il vous plaît. Nabil Djellit, vous me dites qui ?
La semaine dernière, c'était Zegrova, cette semaine, c'est Ben Taleb.
Ben Taleb ? Ah ouais ? Ok. Greg ?
Comme souvent avec eux, Jonathan David.
Jo David ? Ah ok. Sébastien ?
Je pense que c'est
difficile. Il y a un gars distingué ce soir ?
Je vais vous dire Cabella, mais...
Ouais. Pense... ouais, mais alors ouais.
Ouais. Okay. C'est bon, deux. Mais...
Mathieu ?
Moi, c'est bon, par défaut, Cabella.
C'est Cabella ?
Parce qu'il a marqué, mais...
Cabella par défaut ?
Ouais, parce que...
Vraiment, attendez, gardez vos arguments, Mathieu. Mettez pas tout comme ça. Mettez pas tout comme... Raymond, est-ce qu'il y a un nom qui a été cité, là, dans l'Assemblée, où vous avez un... Ouais ? Ouais ? Nabil par Djellit.
Ouais, c'est le.
Non, pardon, comme ouais. Ça, franchement. Est-ce que vous avez décidé qu'il allait être MVP avant la rencontre?
Pardon?
Non, déjà, je repose ma...
je vais vous répondre.
Je repose ma question. Non, et vous avez un petit croche sur Ben Taleb.
J'aime bien
le petit truc.
C'est dur de pas le voir, mais j'ai souvent dit, avec un peu, pas d'humour, mais je le pense, c'est un peu le Thiago Motta de Lille, quoi, dans l'esprit.
Ouais, ok.
Et c'est pas moi qui l'ai désigné homme du match, c'est son entraîneur en conférence de presse qui a expliqué que c'était le meilleur Lillois de la saison.
Avant le match alors, il a décidé avant le match. Donc il est comme toi l'entraîneur. Il a décidé avant le match que c'était l'homme du match.
Je pense que c'est un bon entraîneur et qu'il a pas tort et qu'il donne le ton à cette équipe et je fais remarquer.
Non, parce que vous êtes en train de conclure, vous êtes en train de vous échapper.
Je dis pourquoi je l'ai dit.
Nabil Ben Taleb, qu'est-ce qu'il a fait de bien ce soir? Pourquoi vous voulez le distinguer? Voilà.
Parce que c'est le quarterback de l'équipe, il est toujours bien positionné, il est capable d'allonger le jeu en renversant à l'opposé. Il donne le tempo sur deux des trois buts, notamment il relance sur le côté Zegrova qui dédouble sur Thiago Santos qui centre en retrait pour Gudmundsson. C'est Santos qui centre.
Ouais, ouais.
Il est également sur l'autre but. Et puis, moi, je le trouve propre. Mmh. Il a une première touche qui est fantastique. Il a eu aussi des initiatives en tentant des frappes de loin. Je trouve qu'il fait un match complet. J'aurais pu dire aussi Cabella, mais j'ai dit Ben Taleb.
Et il aurait pu provoquer l'expulsion de Balerdi. On y reviendra. Les notes de l'équipe du soir, mes amis, vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous allez sur le site l'équipe. On vous a proposé des noms. Et puis, vous votez, vous tranchez. Pardon, mais juste, vous allez défendre votre joueur avec Joe David. Il n'y a pas de problème. Mais là, il y a eu tout un tableau qui a été fait. Les deux hésitants, là, nos deux Suisses, là. Et je suis là, par défaut, machin.
Il a une complémentarité avec André, que je ne voudrais pas retirer non plus, parce que c'est un binôme, c'est important.
Il nous a fait un petit bilan de la saison.
Oui, un petit bilan, Non, mais quand il a parlé du match de Nabil Ben Taleb, est-ce que vous avez vu des choses de Cabella qui étaient un peu plus impactantes et un peu plus influentes?
J'ai déjà vu.
Il n'avait pas besoin de forcer, il avait une équipe moyenne.
Alors peut-être qu'il n'a pas forcé. Mais, je ne trouve pas qu'il y ait un joueur qui est vraiment fait une différence incroyable et qu'on ait vu plus particulièrement ce soir.
Personne n'a contesté le début de premier débat sur l'OM qui a été surclassé ce soir par Lille. Et pourtant, il n'y a pas un joueur. Il y a pas un joueur qui
est une équipe de foot. Ça a été collectif.
C'est une équipe de foot.
Ouais,
mais ça joue quand même.
Mais après, c'est la sensibilité aussi.
Oui, par exemple, Cabella,
des fois, tu peux avoir des joueurs qui sortent vraiment du lot, qui ont un vrai impact. Mais là, ça n'a pas été le cas. Il y a pas. C'est vraiment collectivement que Lille a été supérieur.
Moi, je dis Cabella parce que je trouve que c'est un joueur qui, dans cette équipe où quelque part, tu te dis que tout est bien fait, tu vois, et puis ça roule comme ça, gentiment. Mais je trouve pas qu'il y a un truc qui se dégage d'incroyable, malgré leur qualité. Je trouve que c'est un joueur qui apporte de la vie et qui me plaît.
Et voilà. Vous avez vu le geste que vous avez fait? Ça, là, ça, ouais. Y a pas un truc. Mais ce soir, c'est encore... Mais
non.
Si encore
non, pas ce soir.
Pas ce soir.
Mais il est fan. Un peu, les gars.
Thiago Santos a été meilleur sur son côté.
Non, ils ont marqué 3 buts en deuxième mi-temps. On a perdu Sébastien Tarago.
D'accord.
Un verre d'eau pour le sur Tarago. Parce que là, le chat va pas passer.
Pardonnez-moi.
Non, mais c'est rien, ça peut arriver. Zegrova, non? Ce soir ?
David. Mais pas ce soir.
Non. David. Bon, bah, toujours. De toute façon, David, David, David. Pourquoi Joe David ?
Alors, le premier but, il le fait, il le crée, il transforme le pénalty, il fait tout. Le deuxième but, il met le mec dans la décision qui ouvre le chemin de Cabella puisqu'il fait l'appel à droite. Donc, et le troisième but, il fait l'appel, il embarque le mec au premier poteau, ça se passe dans son dos. Donc, sur les trois buts.
Bah, c'est son rôle d'attaquant, quoi. En fait.
Oui, non, mais certes. Oui, mais enfin,
là, tu viens juste de résumer le rôle d'un attaquant.
Non, mais exactement. Mais enfin, ça fait 3-1, il est quand même sur les trois buts. Il est une fois de plus celui qui a couru le plus.
Les attaquants marseillais,
on
va faire.
Oui, voilà. On peut aussi voir le Aubameyang s'il est passé.
Mais voilà, Mathieu, en plus, il vous a dit le roi de la profondeur et tout ça. Et là, vous le remettez en tête.
Ce que je veux dire, c'est que le but, voilà, le but Cabella lui doit quelque chose, le dernier but lui doit quelque chose, et le premier but lui doit quasi qu'à lui et au malheureux.
Il aurait même pu avoir une passe D sur Zegrova au bout de 4 minutes.
Il peut même avoir une passe D sur Zegrova au bout de 4 minutes, ce que j'ignorais et ce que Mathieu vient de voir. Donc ça fait beaucoup quand même.
Vous êtes mignons tous les deux. Mmh.
On a une déclaration de Rémi Cabella.
Oui, au micro de Prime Video.
On lui a posé la question, il a fêté son but. Hein.
C'est ça, et sur son but justement, il en parle. Je m'inspire beaucoup de Kylian Mbappé et pendant l'action de mon but, j'y ai pensé. Il n'a pas toujours besoin de dribbler, donc je fais ma petite touche et j'enroule second poteau. Il faut parfois prendre exemple sur les grands joueurs. La petite déclaration sympathique de Rémi Cabella.
C'est qu'il s'inspirait de vous, Kylian. Ne vous inquiétez pas, voilà. Oui, sur le but qui marque, logique de jeu, la plus, on va dire,
oui, mais c'est vrai
il se sert
de l'appel et il a bien le ballon dans les pieds de l'intérieur. Je veux dire, c'est vrai, il ne s'écarte pas, donc il ne prend pas le temps de préparer. Il ne laisse pas le temps au gardien de but de se préparer. Ouais. Disant, qu'est-ce qui va se passer ? Il a presque le ballon dans les pieds et il l'enroule direct sans dribbler.
Il ne si on regarde bien, ce n'est pas vraiment un enroulé qu'il fait.
Il la fouette.
C'est vraiment un ballon un peu fouetté. Les nouvelles tendances du moment qui sont bien fouettées. Parce qu'il n'a pas le temps vraiment, si on voit sur ses appuis, de se décaler pour bien l'enrouler.
Vous me faites un lift de tennis, là.
Exactement, ça, c'est fouetté direct comme ça, là. La balle va quasiment tout droit.
Avec le ballon vraiment dans les pieds.
S'il avait enroulé, il n'aurait pas pu
marquer. Mathieu, non ?
Je n'avais pas cette technique de frappe.
Et toi, tu joues à droite, non ?
Et en plus, je joue à droite.
Donc c'est difficile. Coup, quoi. Tu es obligé de faire des centres.
Moi, j'étais plus un centreur. Quoi qu'il arrive.
Il n'avait aucune technique de frappe.
Moi, le but, ce n'était pas mon.
Tu ne faisais pas de stats.
On revient au choix de Nabil Djellit, un choix validé par votre président.
Déjà la semaine dernière, Raymond. J'avais fait le truc, le focus à fond sur Zegrova.
Ouais.
En sortant de l'émission, il m'a pris dans un coin, il m'a dit je vais t'expliquer le football. Ce soir, le joueur, c'est Ben Taleb.
C'est vrai ?
Je te laisse, Raymond.
C'est vrai.
La semaine dernière, le mec le plus influent, c'est Ben Taleb. La semaine dernière, pour le derby, racontez-moi.
C'est lui qui gère tout. Il gère les temps forts, il gère les temps faibles. Il sait défendre, il sait se positionner. Il donne toujours une solution. Il est le relais permanent. Il équilibre cette équipe. Ils sont jamais en difficulté. Il est toujours bien placé au bon endroit, au bon moment. Je dis, il me fait penser à Matich, quand il est bien, quand il avait quelques années, à Lyon. C'est le même type de joueur. On a l'impression qu'ils n'accélèrent pas, mais ils sont toujours là où il faut. Et je suis d'accord.
Le rythme s'accélère.
Et lui, il est encore là. Oui, non, mais je suis d'accord. Matich, en ce moment, il est en train de mourir gentiment. Mais l'association avec André,
elle marche bien.
Ouais. Parce que l'autre, c'est un marathonien. Il court dans tous les sens. Il coupe tout. Il tacle de tous les côtés. Il est juste techniquement. Ils donnent de la profondeur aussi parce qu'ils vont devant. Donc, ils ont un bon équilibre. Je trouve qu'ils ont de bonnes doublettes sur les côtés.
Bien pensé.
Dans l'axe. Je veux dire, ils ont un jeu qui est bien construit. Mais pour moi, Ben Taleb, il a ce côté vraiment
et encore plus
le
soir.
Régulateur.
Enfin, et aussi ce soir.
Et ce soir aussi. Il avait eu le match de Lens qu'on ne l'a pas souligné parce que Zegrova a marqué, a fait des trucs plus spectaculaires. Mais quand on est entraîneur et qu'on regarde un match, on se dit...
Qui calme le jeu, qui a la capacité technique. Quand lui, on lui donne la balle, même s'il y a un pressing autour de lui, qui va pas la perdre, qui va faire les bons choix. C'est même pour les joueurs, c'est rassurant.
Et il a été aussi bon contre le PSG. J'ai remarqué qu'il était fort contre les forts. Peut-être après, il faudrait voir sur la moyenne cumulée. J'ai regardé au classement des étoiles de l'équipe. Non, mais attends.
Des étoiles.
Les étoiles France Football.
Au classement.
Vous faites partie de l'équipe de France Football.
Mais il est 15e. Ça veut dire qu'il est à la porte du 11 type en sachant qu'il y a une équipe qui est disproportionnée, qui est le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, il est parmi les meilleurs joueurs du championnat, tout simplement.
En fait, ils ont de l'expérience et de la maîtrise dans l'axe, et ils ont de l'énergie sur les côtés. Je trouve que ça fait quand même quelque chose de très particulier.
Donc ce soir, ils sont 3e.
Ah bah, c'est leur place.
C'est sympa pour Monaco, parce que Monaco pourrait récupérer également sa...
Ouais. Et ne pas oublier Brest, hein, quand même. Oui, tout le monde les oublie depuis le début de saison. Mais,
si Lille sur le podium, pas sur le podium.
Il mérite le podium.
Dans les quatre,
oui, dans les quatre, ils sont dans le podium.
Oui, mais ça ne peut pas durer.
Ça peut être une saison.
En course, quoi.
Mais non, parce que les quatre sont Ligue des Champions, c'est ça qu'on veut dire. Il y a quatre qualifiés pour Ligue des Champions.
Vu ce qu'ils proposent, vu ce qu'ils font face aux meilleures équipes, s'ils ne sont pas sur le podium, pour moi, ça sera une déception. Voilà. C'est comme ça que je le lis. Pour,
enfin, la quatrième place, ce n'est pas un cadeau, parce qu'il y a un tour préliminaire.
Oui, c'est vrai. Ouais. Qui souvent est fatal au club hexagonal.
Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui espéraient être quatrième, dont l'adversaire ce soir de Lille. Quoi.
Pas limite, forcément. Je pense qu'ils demandent s'il vaut mieux pas être cinquième. Hein.
Pas forcément.
Et jouer l'Europa League sur... Bon, on est tranquille au moins. Hein.
Pas forcément le président l'étant. Pourquoi ? Puisqu'à chaque fois qu'on lui pose des questions sur l'avenir, un de son joueur, Lenny Yoro, et de son entraîneur, Paulo Fonseca, on dit, on fera un peu les comptes à la fin de la saison, de savoir si on est troisième, peut-être directement en Ligue des Champions, quatrième, la zone où finalement on est toujours qualifié, mais on ne se qualifie jamais. Alerte générale, Jean-Louis Gasset, en conférence de presse, c'est maintenant.
Bonsoir. Qui veut commencer ? Michel.
Comment vous expliquez là, que votre équipe, d'un seul coup, a semblé complètement perdre le fil du match alors que ça semblait tenir la route ?
C'est l'impression que j'avais aussi. En première mi-temps, on a maîtrisé, on a eu des balles de contre, on a eu des situations pour finir. Mais on est timide, c'est pas. C'est vrai, en seconde mi-temps, on a donné le match. Que des cadeaux. Des balles faciles, non négociées, qui lancent l'adversaire. Voilà, c'est... Aujourd'hui, on a été très mauvais.
Jean-Claude.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à titulariser Luis Enrique, Azin Unai et Pape Gueye ? S'il vous plaît.
Dans la trêve internationale, on a perdu notre côté droit. Que ce soit Klos, on a perdu Mbemba contre Paris, et on a perdu Sarr avec le Sénégal. Donc il faut des joueurs qui puissent jouer sur les côtés. Et je pense que il avait fait contre Paris, il avait attaqué et défendu. Je pense que c'est le seul joueur de l'effectif qui peut jouer côté. Luis Enrique, oui. Après, il fallait gagner la bataille du milieu parce que Lille a un très bon milieu. Donc on a essayé d'être un de plus pour avoir des balles de contre. D'où... une déformation en losange quand on avait le ballon qui a été en première mi-temps significative. Mais vous savez, quand vous faites des erreurs techniques à ce niveau, comme on a fait, vous ne pouvez pas gagner un match de football.
Bonsoir, oui. Louis. Ne payez-vous pas ce soir la différence de niveau entre Marseille et le LOSC, et votre déplacement à Lisbonne n'est pas votre dernier espoir pour ne pas avoir une saison gâchée ?
C'est ce que j'avais dit aux joueurs avant le match. Malgré la saison chaotique, si on fait un résultat ce soir à Lille, il restera 6 matchs où on recevra 2 équipes qui sont classées au-dessus. Et à l'extérieur, c'était le dernier match à l'extérieur qu'on jouait contre une équipe qui était mieux classée que nous. Donc j'ai dit, si on fait un résultat, on peut rêver encore. Et malgré cette saison, si on a la Coupe d'Europe jeudi et qu'on a encore un espoir en championnat d'accrocher une bonne place, on va vivre une fin de saison plus joyeuse que prévu. Mais quand on rend cette copie ce soir, qu'on donne le match, qu'il y a 1000 spectateurs qui se sont déplacés et des milliers qui nous ont regardés devant la télé, il y a une espèce de sentiment de honte parce que on a manqué de respect déjà au football et après à beaucoup de gens.
Bonsoir. Quelle est la première chose à rectifier? S'il y a une chose qu'il faut rectifier immédiatement à l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que c'est?
On n'aura pas grand choix. Sur les 18 joueurs qui sont là, je crois qu'il y en a 6 qui ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe. Et le seul espoir que j'ai, c'est Chancel Mbemba, qui, j'espère, pourra jouer à Benfica. Donc il va falloir jouer avec les joueurs qu'il y avait sur la feuille de match. Donc je leur ai dit, on a été nuls, on a été mauvais, mais c'est avec ce groupe qu'on va se déplacer en quart de finale de la Coupe d'Europe.
Jean-Louis, pour les ambitions européennes pour la saison prochaine, 4 défaites, on a l'impression que ça glisse. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? La Ligue des Champions, vous n'avez peut-être plus en parler, mais il y a aussi l'ambition au moins d'avoir l'Europa League pour la saison prochaine?
Écoutez, quand je suis arrivé, mon objectif, c'était de passer le plus de tours possible en Coupe d'Europe et de gagner le plus de matchs. Je ne regardais pas le classement, je l'ai dit dès arrivé. Donc on a fait 3 victoires d'affilée et on vient de faire 3 défaites d'affilée.
Allez Bruno, on finit avec toi.
Oui, voilà. Coach, sur votre gauche, je reviens un petit peu là-dessus, mais plus
merci
les matchs...
Merci beaucoup, Jean-Louis Gasset. J'avais prévu une question, faut-il redouter une fin de saison terrible pour l'Olympique de Marseille, puisque l'OM n'ira pas en Ligue des Champions. Là, avec la conférence de Jean-Louis Gasset qu'on avait, on a l'impression d'un basculement. Non,
le truc de dire j'ai 12 joueurs valides, je suis bien obligé de les mettre sur la feuille de match, c'est terrible ça. Quoi. Ouais. Tu fais plus d'équipe, tu fais plus de. Tu dis, bon, toi, t'es vaguement un joueur de côté, donc on te met là, il peut pas dire mieux.
Bah, déjà, c'est la réalité.
C'est la réalité.
C'est la réalité.
Ça sent quand même l'amorosité. Quoi.
Ah oui, ça, c'est la résignation.
Ouais, on a l'impression. On sait que c'est un peu son style d'avoir ce ton-là, mais. Un peu de vie, quoi. Il y a encore des choses à jouer pour l'OM. Il y a encore des choses intéressantes à aller chercher. Ils ont ce beau parcours en coupe. J'ai vu Benfica contre Toulouse. C'était pas non plus une montagne. Alors, ok, sur le papier, Benfica, c'est un grand nom. Mais dans les faits, il y a quand même quelque chose à jouer. Il faut pas partir non plus défaitiste. Donc, moi, je trouve que voilà, il y a un peu trop de morosité, même si on sort d'une défaite à Lille. Mais
je le trouve très dur.
Dur, quoi.
Non, c'est la pub.
C'est la pub. Dans quelques minutes.
Et il en fout.
Ok. Dans quelques minutes, on ira voir Sébastien. Voilà. Allez, à tout de suite pour prolonger finalement la sinistrose marseillaise. Nous sommes quittés juste avant la pause avec la conférence de presse de Jean-Louis Gasset qui, moi, m'a paru très fatigué et un brin résigné. Il avait fait la promesse à ses joueurs juste avant ce match de Ligue, il y avait 7 points d'écart. En cas de succès, cette fin de championnat pouvait se retrouver, on va dire, un peu plus positive. Écoutez ce passage.
Si on fait un résultat, on peut rêver encore. Et malgré cette saison... si on a la Coupe d'Europe jeudi et qu'on a encore un espoir en championnat d'accrocher une bonne place, on va vivre une fin de saison plus joyeuse que prévu.
Il a dit les choses pour ceux qui viennent d'arriver, ça arrive. Ouais. Les gens qui regarderaient pas du début à la fin nos prestations, mais comme celle de
l'OM. Qui ont été bien meilleurs que certains joueurs de l'OM ce soir.
Mais sa conférence de presse est totalement incroyable. C'est-à-dire, on a été nuls. Là, de toute façon, sur les 18, il n'y en a que 12 que je peux aligner en Coupe d'Europe. Donc, de toute façon, il faudra bien que je les fasse jouer, en gros.
Il a lâché.
Je ne sais pas s'il a lâché.
Il a lâché, mon Dieu. Mais je ne sais pas s'il a lâché. Quand même. Mais, enfin, les gars, vous payez. C'est une porte ouverte sur son âme. Il ne nous ment pas. Il nous dit ce qu'il pense. Et il nous dit à peu près ce qu'on croit constater. Non, mais... Donc, vous voulez quoi qu'il vous paradis
considérer...
vous...
Les gars, vous êtes champions. Greg, tu ne peux pas taper sur Gattuso quand il donnait des conférences de presse comme celle-ci en disant, de manière quasi unanime, qu'il a envoyé un mauvais message. Et ne pas le relever quand c'est Jean-Louis Gasset, malgré toute l'affection et le respect que l'on peut avoir pour Jean-Louis Gasset.
Mais c'est un mec à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il dit à peu près les choses comme elles lui viennent. Il dit on va pas se plaindre de ça, nous, journalistes.
Oui, je ne m'en plains pas.
Il m'a expliqué ce que j'avais
dit. On se plaint pas de son parler. Là, on se plaint du fait, c'est le ton qu'il utilise et la façon dont la sinistrose qui renvoie. Normalement, les entraîneurs, ils ont toujours un discours un peu de façade médiatique et toujours un peu positif, qui est un peu surjoué. Et derrière, t'as été beaucoup plus intransigeant avec tes joueurs et beaucoup plus dur. Mais là, il a un discours qui est tout de suite un peu.
Mais surtout, ils n'ont pas été nuls.
Je suis d'accord. Et oui.
On écoute très bon parce que là, il y a un truc soit de com, soit de franchise.
Le problème de cette com, avec des conditions, si on réussit. Si on gagne ce match-là, on a un avenir, on a quelque chose. Ouais. C'est le truc à risque. Parce que dans ce genre de truc, une fois que le match il est perdu, comment on refait derrière ?
Tu t'es coupé.
T'as tout coupé parce que t'as lancé le truc en disant si on gagne Benfica, on va faire une bonne fin de saison. Enfin, là, tu perds premier en étant, je veux dire, en étant moyen, plus que moyen. Et donc, t'as coupé l'élan. Oui. Je veux dire que lui, je suis d'accord, il est dans le coup de l'émotion. Mais quelque part, le problème, c'est que les spectateurs marseillais, les joueurs marseillais,
surtout les joueurs, ils
l'entendent. Ils
doivent pas laisser transparaître.
Ils l'entendent, ça.
Il va arriver, il va nous dire Unai, t'es mon champion. Tu les as bouffés ce soir.
Non, mais ça va être difficile. Non, mais ça va être difficile. Ça va être difficile pour lui. Ça va être compliqué pour lui derrière. Comment il revient dans le vestiaire ou demain matin, comment il vient pour leur redire, on y croit encore, les gars.
Si déjà eux, ils voient médiatiquement que ton coach, il dit ça, alors tu peux pas avoir un discours complètement différent.
C'est difficile.
C'est l'inverse que tu dois faire. Médiatiquement, tu dois protéger un peu ton groupe. Alors, on s'en plaint souvent parce que c'est toujours un peu lisse, mais c'est toujours la façon parce que les joueurs, ils sont pas bêtes. Ils vont allumer les télés, ils vont voir tout ça. Et ça va être transcrit partout. Et derrière, dans ton vestiaire, là, tu peux te permettre d'être plus dur. Là, tu peux te permettre d'avoir un discours un peu plus froid. Mais médiatiquement, je trouve que voilà, là il renvoie quelque chose de vraiment négatif pour tout le monde. Si tu as envie de t'accrocher à ça.
Et surtout sur le match d'après.
C'est dur, quoi.
C'est-à-dire que concrètement, sur le match d'après qui est en Coupe d'Europe,
c'est facile à deviner le match d'après en championnat. C'est simple. Dès que c'est une équipe bien classée, ils perdent. Voilà. Dès que c'est une deuxième partie de tableau entre 15 et 18, ils gagnent.
Ça d'accord. Mais là, ils se projettent sur le match de Coupe d'Europe. Et effectivement, la sinistrose, elle est aussi sur le prochain match. Ça, c'est plus ennuyeux, moi, je pense, en termes de management.
Sauf que le prochain match, c'est Benfica.
Oui,
donc, il y a quelque chose, mais ça monte tout seul.
Ça monte tout seul.
Ça reprend.
En gros, il envoie le message. Les joueurs lisent, écoutent, revoient. Et si ce n'est pas eux, ce sont leurs entourages. Et donc, là, il envoie clairement le message que, de toute façon, il est obligé de les faire jouer, les pimpins. Donc, il va faire jouer les pimpins. Enfin, franchement, en termes de management... C'est quand même pas idéal.
Aussi, mais tu peux dire la mère, tu peux dire justement, tu les traites de pimpins. Les mecs, ils vont se sentir tellement humiliés qu'ils vont avoir envie de montrer quelque chose.
Non, mais
tu peux les
expliquer. C'est risqué.
Nabil Djellit patiente depuis 5 minutes. Nabil, on vous écoute.
Non, mais moi, je déconnecte pas ce que je viens de voir ce soir, de ce qu'il a vécu récemment.
En Côte d'Ivoire ?
Donc
il a lâché pour vous ?
Non, il n'a pas lâché, mais j'ai l'impression.
Il a lâché en Côte d'Ivoire.
Non, mais.
Oui, c'était
dire, c'est un retour à la réalité qui est brutal. Moi, pour moi, il n'est pas venu pour sauver l'OM, il est venu pour sauver lui-même. Depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, c'est comme ça que je le lis. C'est-à-dire qu'il il s'est vite réembarqué dans une histoire. Non, mais je ne suis pas en train de juger de sa manière. Mais il y a une forme de thérapie quelque part, parce qu'émotionnellement, ça a été quand même difficile ce qu'il a vécu.
J'imagine bien.
Avec tout le respect qu'on lui doit, parce que être licencié, enfin, ou être remercié à l'amiable, comme
le, c'est le premier coach que j'ai vu virer.
Vous lisez le truc comme vous voulez, moi je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin.
Il finit pas sa mission.
Voilà, à la fin, il y a des gens qui le remplacent et il gagne la compétition. Moi, j'avais jamais vu un truc pareil. Pour lui, je pense que c'était difficile. Ça a été quand même quelque chose, une opportunité exceptionnelle de pouvoir effacer ça très vite, parce que l'OM, c'est pas n'importe quel club. Et aujourd'hui, après, on va dire, un peu un état de grâce, on avait même des débats, Seb, où on se disait, est-ce qu'il faut prolonger Gassé si ça continue comme ça en fin de saison ? Il est rattrapé par la réalité, dont il n'est pas totalement responsable, puisqu'on sait que le début de saison de l'OM, il n'a pas commencé avec Gassé. Et moi, ce soir, son expression, j'ai l'impression que c'est Gassé avant Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Ouais, on va se remettre dedans, ouais, c'est bon les gars. Et tout. C'est exactement pareil, quoi. Donc j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a des fantômes du passé, très récents, qui ont été reconvoqués ce soir.
Après, c'est aussi une manière de s'exprimer.
Oui.
Mais il s'exprime comme ça. Le ton, je veux dire, même dans la victoire et même dans l'euphorie, il a le même ton. Ça joue aussi un petit peu.
Oubliez pas que dans un mois et demi, il est parti. Non mais c'est pas. Attends, mais il va pas parler comme un coach qui est là pour c'est pas Fonseca. Ouais, c'est pas. C'est, oui, mais... Il est là, il dit écoutez, je rends service, je gère la misère parce que c'est pour ça qu'il est là. Au
fond. Greg, non, mais tu justement... penses pas quand t'es dedans, tu penses pas à ça.
Non mais
t'es dans une mission, tu te dis pas déjà bon quoi qu'il arrive, je fais ce que je peux.
Il communique quand même comme un mec qui sera pas là.
Oui mais Greg, dans ce que vous dites, c'est factuel. Dans un mois et demi, il est parti, ça va être la fin du championnat. Mais là, est-ce que le charme, le truc avec ses joueurs,
c'est la fin de
magie, ce truc un peu imperceptible, cet effet Gasset.
C'est pas à cause de ce qu'il dit, c'est parce qu'ils viennent de perdre 4 matchs.
Oui, ben.
Je veux dire, à un moment donné, non, mais la réalité, elle est là, on va pas essayer de dire.
Franchement, Olivier, c'était pas ça. Enfin, je sais ce que j'ai dit à l'époque, donc je veux bien le dire encore aujourd'hui, c'est pas sérieux. Je veux dire, l'euphorie dont vous parlez, après les 4 matchs gagnés, c'était pas sérieux. Je sais pas qui, quand, où. Mais moi, j'ai participé à des émissions sur cette chaîne où. Pardonnez-moi, mais je rappelais quand même contre qui ils avaient gagné.
Ouais.
Mais il suffit de regarder.
Nantes, Montpellier, clairement.
Ben c'est tout.
Villarreal.
Donc les gens, je ne sais pas
qui vous... Et Villarreal 4-0.
Et derrière, le match
retour. Chaque 2-0, ils sont qualifiés.
Ils sont passés à ça.
Ils sont
pas. Mais ça veut dire quoi, c'est l'OM.
Les gens, ils ont quand même besoin d'espoir.
Oui, mais les gens.
Non mais c'est normal.
Pourquoi au Mans ils n'ont pas besoin d'espoir?
Non mais je dis, t'es obligé de t'accrocher à quelque
au Mans. Non mais tu vois ce que je veux
ça,
dire.
Ça a mal tourné, tu sais très bien. Je parle pas des 24 heures du Mans. Hein.
Non mais ou à Clermont.
Non mais je veux dire par là. Non mais ouais mais Marseille.
Moi je suis Clermont, on a besoin d'espoir.
Hein. C'est un club de passion. C'est un club de passion. C'est un club de passion. T'imagines que la semaine dernière là, ils perdent contre le PSG à 10 contre 11.
Ouais.
On se retrouve à parler d'un tifo là. Plus que du match en lui-même. Ouais. Non, mais c'est pour te dire l'irrationalité du truc, quoi.
Oui, mais c'est nous, l'absurdité, elle est liée à nous, ou maintenant aux réseaux sociaux. Mais c'est pas eux, ça.
Non, mais...
L'absurdité d'une euphorie liée à une victoire. Rappelez-moi encore, Clermont.
Clermont, Nantes et Montpellier.
Bon, mais excusez-moi, mais les gens qui se sont emballés.
Mais malgré tout, il faut les faire ces victoires. Malgré tout, est-ce que s'il n'y avait pas eu l'effet Gasset, ils les auraient eu.
Je pense à personne.
C'est pour ça que tu es obligé de le mettre en avant.
Et il y a quand même eu Villarreal. Il y a quand même eu Villarreal où c'est un très gros match. Non, mais moi je suis d'accord avec
toi.
Mais Villarreal, c'est pas. C'était pas n'importe quel match, c'était comme ils les ont démontés pendant 90. Enfin, il y a eu ça.
Et puis pour le coup, même si je tourne un peu en boucle, mais. Je trouve qu'il est dur avec son équipe parce que ce soir il manque Mbemba, il manque Klose, il manque les joueurs.
Et ça, j'ai dit. Pardon. Vous avez quand même pas dit les débiles profonds qui nous regardent, non?
Ah non.
Pas du tout.
Non, parce qu'on me dit à l'oreillette, il a dit ça.
Non, j'ai dit les gens qui sont tombés dans l'euphorie. Donc je parlais de nous. Non. Je ne me permettrai pas de parler
de nous. Ok, non, c'est tout.
J'ai dit les gens qui sont tombés de haut.
C'est la barre. Tu peux dire que je suis une habile profond. Moi, ça me dérange.
Mais donc, on est dur. Parce que s'il y a Klose, s'il y a Mbemba, s'il y a les joueurs un tout petit peu au-dessus qui sont là, c'est quand même pas la même équipe non plus, non?
Oui.
On est d'accord.
Mais d'autant plus, c'est-à-dire qu'ils ont des circonstances atténuantes.
Bah oui,
c'est pour ça que je trouve le constat un peu dur.
Ouais, c'est dur.
Non, mais là, il n'y a pas de circonstances atténuantes.
Parce qu'ils ont des circonstances atténuantes.
Toi, ce soir, ils t'ont désespéré.
Non, mais le casting, il a quand même le droit de proposer autre chose que.
Ah bah oui,
non, le fait qu'il n'y ait pas Mbemba.
C'est clair.
Sarr devant. Non, mais attends, il y a des joueurs qui ont brillé en Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui ont brillé en Coupe du Monde.
Tout le côté droit. Tout le côté droit.
Il y a un Brésilien qui a été acheté par Longoria, qui devait être la future star du championnat français, qui aurait dû revendre 50 millions.
Qui devait.
Moi, je suis bête, hein. Je lis.
L'ancien franc.
C'est une énorme arnaque.
Non, mais ce soir, j'en ai marre.
Moi, je dis les choses.
Vas-y, dénonce.
C'est pas possible. J'avais dit.
Honnêtement, je veux pas tirer sur l'ambulance.
Non, mais là, c'est le mec hospitalisé.
En 12 ans, il a pas progressé. J'ai vu le match contre le PSG. C'est même pas zéro dribble réussi pour un ailier, c'est zéro dribble tenté. Il tente rien. Comment ce mec-là, t'as pu mettre 10 millions d'euros sur lui? Comment t'as pu faire ça?
Heureusement qu'il tente rien, ça aurait été plus cher.
Au bout de 3 mois.
Non, mais je veux pas
l'aider.
Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, que je voudrais pointer du doigt.
Unai?
Unai.
Unai.
Moi, franchement, j'ai fait semblant de fermer les yeux pendant longtemps.
Oui.
Parce que c'est vrai que esthétiquement, je lui mets une bonne note artistique. Oui. Il est élégant, il a un succès d'estime, mais il vend aucun bouquin. Oui. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai qu'on le voit jouer, il est magnifique. Mais pour l'instant, c'est juste un joueur de sélection. Oui. Ou alors, il faut mettre Regragui sur le banc de l'OM.
Parce que là. Non, autre chose.
Non, mais il esquive les duels. Il me fait penser à des joueurs du PSG qui font semblant de défendre. Et puis, comme il est beau à voir jouer, C'est vrai que quand il fait une passe, c'est agréable. Mais il n'y a rien. Il ne se passe rien.
Il
n'est
pas spécialement beau à voir.
Il est dans l'ombre.
Chers téléspectateurs, on a un peu ce soir en thérapie de groupe. Vous, Greg Schneider, vous avez un truc. Harit, il vous a désespéré ce soir.
Ah, ce soir, je l'ai rarement vu dans cet état.
C'est Harit, moi, si tu peux.
Il rend tous les ballons. À chaque fois, non, parce que là, si vous écoutez, ils ont eu des situations en première mi-temps, et la dernière passe, c'est souvent lui qui la rate quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, alors que c'est, ils ont deux, trois situations.
Les trois premières passes. Voilà. Les trois premières.
Déjà, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Si tu fais rentrer deux, trois joueurs du dessus, ça change l'équipe. Ça, c'est premier. Ouais, et si tu joues bien,
c'est-à-dire que ça va être un ogre.
Non, mais par exemple, aujourd'hui, Vertu, c'est bien. Balerdi, c'est bien. Il y a comme une osature. Il y a quelques mecs qui
sont. Balerdi rattrape ses bêtises.
Et si tu joues ces coups-là, les circonstances du match changent et t'as une petite fenêtre. Elle est pas énorme, mais t'as une petite fenêtre. Et je trouvais que Karitz, il a failli là-dessus.
Il y a Aubameyang tout seul qui doit se débrouiller. Il fait faire du stop car au gars pour qu'il marque des buts. Sinon, il ne se passe rien. Il n'y a que lui. Il ne se passe rien.
Dans quelques minutes, la suite
c'est la vérité.
De l'équipe du soir. Mathieu, Sébastien, Raymond, si un jour vous désespère, on est en thérapie de groupe jusqu'à 1h du matin. Vous activez, on va en parler, on va vous écouter. Chers téléspectateurs, vous pouvez également activer votre désespoir sur le site L'équipe. Je vous embrasse, mais l'émission continue. À tout de suite. Voilà, c'est reparti pour l'équipe du soir. Nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin en compagnie de Mathieu Dossévi, notre nouveau boys band. L'homme de la Ligue 2. Demain, vous œuvrez pour Caen Bordeaux. Vous êtes un cumulard, mon cher Mathieu. Rendez-vous à 19h.
Hein. 19h. Exactement, on sera là.
Sébastien Tarago est dans la place. Grégory Schneider, Nabil Djellit, ça va mieux, Nabil. Vous êtes dégagé un peu les bronches, ça va mieux avant la pause.
Ça va pas mieux parce que je viens de revoir les buts que l'OM a pris.
Ouais.
J'ai vu, parce que j'ai parlé d'Unai et de Luis Enrique, mais j'aurais bien aimé parler d'Ulysse Garcia parce que c'est pas Ulysse revient sur l'action de Wilmenson.
Ok, très bien, on vous laissera parler. Et puis Raymond Domenech est dans la place. Justement, on va revoir cette défaite de l'Olympique de Marseille ou ce succès de Lille, 3-1. Puis on passera aux notes juste après.
Ouais, c'est demandé par Nabil. Et ben, on va vous montrer les images de cette victoire lillois ce soir face à Marseille. La paire de balles de Luis Enrique. Jonathan David en profite. Il y a la glissade également de Samuel Gigot qui va faire faute sur le Canadien. Pénalty concédé et transformé dans la foulée par le numéro 9 de cette équipe lilloise. Les Lillois vont réussir le break avec ce joli but signé Rémi Cabella, l'ancien Marseillais. Les Marseillais vont réduire l'écart avec Aubameyang à la bagarre. Et c'est Ismaili qui marque contre son camp. Finalement, Gudmundsson va alourdir l'addition sur ce bon ballon en retrait. Victoire 3-1 des Lillois. On va écouter Jean-Luc Gasset, extrêmement déçu après la performance de ses joueurs ce soir.
Si on fait un résultat, on peut rêver encore. Et malgré cette saison, si on a la Coupe d'Europe jeudi et qu'on a encore un espoir en championnat d'accrocher une bonne place, on va vivre une fin de saison plus joyeuse que prévu.
Voilà, Jean-Louis Gasset. Notons à présent Ulysse Garcia, c'est le souhait de Nabil Djellit. C'est vrai qu'on a vu son positionnement et son passement. Au passe-pont, c'est un bon poste sur le troisième et dernier but donc de Lille. C'est un 3, c'est mauvais. Est-ce que vous avez les barèmes en tête, mon cher Mathieu, ou pas? Vous voulez un petit coup de main ou pas, Mathieu?
Ouais, bon, il a l'habitude des 3 et des 4.
Ouais. Il a donné la signification.
J'en ai pas eu beaucoup.
3, c'est mauvais.
Ouais, c'est mauvais, quoi.
4, c'est insuffisant, 5, c'est moyen. Voilà.
C'est mauvais.
3, 4.
3, ouais.
3. J'ai l'impression que Nabil a envie de parler.
Non, mais
moi, je le défendrais plutôt, mais vous voulez l'attaquer. Franchement, il découvre le poche.
Je viens de dire tout le bien que je pensais du match de Luis Enrique et d'Unai. Je ne vais pas faire Luis Garcia aussi. Honnêtement, je laisse quelqu'un d'autre prendre.
Ulysse Garcia.
Ouais, enfin là, pour moi, c'était Ulysse.
Non, mais il y a comme une certaine.
Déjà faite là.
Il y a comme une... ça marche toujours.
Il y a comme une certaine intensité physique chez ce gars-là, je trouve. Donc, je trouve que 3, c'était peut-être un peu bas. Puisqu'il dégage quand même une certaine énergie. Il est à la lutte. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était lamentable.
Mauvais match.
On a dit mauvais. On a pas dit
limite sur à la limite de. À l'image du dernier but où il est totalement. Dépassé, il fait pas attention à son joueur directement.
Ah, bon, de 10 mètres.
Oui, c'est vraiment des fautes d'inattention.
Ça, c'est pas des fautes du fait de son poste. Une grosse faute, ça.
Je sais pas, Raymond.
Bah, le gars est pas latéral,
mais à la 89e.
C'est des joueurs moyens qui sont pas faits pour jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est, il a rien de plus. Je veux dire, à la limite, on peut même pas lui en vouloir.
Ça, c'est vraiment une faute vraiment grosse.
Mais il le met là.
T'es défenseur, tu dois.
C'est... Parce que moi, c'est je le défends en disant que c'est pas son poste.
Est-ce qu'il est défenseur là. La question, c'est ça. Est-ce qu'il est défenseur Mais s'il n'est pas défenseur, je ne sais pas ce qu'il est.
Il
ne
montre que non, quoi.
Non, mais là, je ne sais pas.
Il est quoi? Il est rien.
Sur l'action, il est où? Il est se balader. Je sais pas ce qu'il
est. Le problème, c'est qu'il est orienté. Il regarde uniquement le ballon. Et là, c'est toute la complexité du poste de latéral.
C'est cognitif.
Ouais, c'est tu dois toujours être en connexion avec le ballon et aussi avec le joueur. Et là, il a totalement perdu le coup.
Le fini spectateur.
Ouais.
On est à la 90e quand même. Et tu es peut-être fatigué.
Non, mais ça, tu vois bien que c'est une question de placement. Il fait la même chose à la première minute, quoi.
Non, mais attendez, t'es pas sérieux.
Non, mais les gars, vous avez mis la même note. Non, si vous avez mis 4.
Non, mais il est pas sérieux. On peut pas dire ça.
Pour l'énergie.
Si,
on est en demi-finale de l'Euro. Il y a un défenseur français qui oublie quelqu'un à la 90e minute. Tu vas tenir le même argument? Oui. Fatigué sur le
80. On a vu ce but au mondial et ça a coûté Pavard et aller au frigo définitivement pour avoir lâché l'Australien dans les mêmes circonstances.
Donc,
il est allé au frigo pendant un mois.
Donc tu peux pas faire ça.
Ah, Pavard a pas pu le faire.
Non,
mais là, il a pas vraiment le choix.
Ouais,
on va pas le mettre. Il va pas se rajouter une.
S'il le met au placard, il a plus. Ici, il a Mbemba qui peut revenir. Il a dit
que c'était le joueur qui pouvait au mieux remplacer le moins pire. Bon bah.
Le moins pire.
Au pire.
On note un autre joueur, mes amis, en régie. Vous nous proposez qui à noter Samuel Gigot à présent. C'est 3. Aussi, c'est entre mauvais et pas satisfaisant. Ah, là encore, il joue avec une épaule endolorie puisqu'il souffre d'un problème acromioclavicule, abloclavicule. Voilà. Je ne sais pas comment est-il. Bon, c'est du 4 à peu près.
C'est du 4, ouais. C'est insuffisant.
Oui, c'est insuffisant.
Circonstance atténuante aussi, il revient, il est encore un peu hors forme, c'est okay. Bon.
Ouais. Et puis il avait la malchance de jouer avec Luis Enrique. Donc. Ouais.
Non, mais ce qu'on peut souligner, c'est qu'à ce poste-là, quand même, il est là pour récupérer les fautes de des gens qui sont devant.
Il y en a eu.
Mais celle où il doit vraiment la récupérer, c'est sur le pénalty.
Il ne doit pas se jeter.
C'est là où on voit qu'il est peut-être en forme. S'il était en pleine position de ses moyens, peut-être que cette intervention...
Il l'a fait autrement. Ah. Mais là, il va se jeter dans les pieds de David.
Qui attend que ça.
Oui, il attend que ça.
Une joue infiltré à l'épaule. Voilà. Ouais. Bon, un duel gagné. Oh, c'est pas...
Un duel gagné.
Mais il n'était pas là. Il était pas
un
là
duel plus gagné pour un défenseur central.
Ouais.
Il y a eu une erreur dans les stats.
C'est un peu léger.
Il devait jouer avec un faux neuf.
Impossible.
Il a livré que 5 duels.
Ouais, ouais.
Duel
5 et 1 remporté sur les 5.
Ouais, mais bon, après, cette stat-là, c'est toujours un peu.
Oui, ça paraît peu.
C'est quoi, ouais, aussi, quand on dit dribble
C'est le style de Lille qui a pas vraiment. Qui met pas un avançant devant. Ouais. David décroche beaucoup, il est là, donc il n'est pas allé le chercher. Il n'est pas rentré dans le duel.
Ah oui. Bah, ça laisse entendre qu'il a un peu fui le combat. Son épaule, il est peut-être pas prêt.
Ils ont fui le combat à tous.
Ouais. On note qui? Bah tiens, Jonathan David. Donc c'est 16 buts en 2024. Hein. C'est le meilleur buteur européen. Et c'est son premier penalty en 2024 qu'il inscrit. Donc c'est que des buts dans le jeu. 8-7. 8, c'est bon match. C'est bon match pour très bon match pour Grégory. Bon match et match satisfaisant. Tiens, il y a 2 points d'écart.
Il a fait le job.
C'est un bon match. Moi, je vais pas non plus mettre. C'est
satisfaisant là.
Satisfaisant. Ah ok. J'aurais mis c'est entre 6 et 7 quoi.
D'accord.
C'est,
okay.
Ça fait le taf.
Ce garçon a quand même, je trouve, outre qu'il est sur les 3 buts, il a quand même une générosité. Il a quand même il libère des espaces pour les copains. Il y a un altruisme. Il y a quand même il donne beaucoup à une équipe. Faut aussi le mettre dans cette perspective-là, outre les stats, parce qu'on va évidemment parler des stats, il est loin de faire que ça.
Ouais. Je suis en train de regarder s'il a gaufré les actions. A-t-il gaufré les actions?
Et n'oubliez pas la passe D, n'oubliez pas la passe D pour ses gros vols, comme Mathieu l'a noté.
Qui a été vendangé par ses gros vols.
Non, il n'a pas raté grand-chose.
Il est sur les trois buts,
il aurait pu être sur 4 buts.
Oui, il aurait pu être sur 4 buts, il a couru comme un malade. Je sais pas.
Il défend, il revient se placer, il redonne des solutions pour ressortir à chaque fois. Non, c'est. S'ils le perdent, c'est une grosse perte.
Ok.
C'est le perdre.
Ils vont le perdre, c'est ça le problème. C'est, c'est Lens l'année dernière avec. Comment il s'appelait
Openda.
Openda. et ben ça peut être pareil. Ah ben,
Lille arrive souvent quand même à se renouveler par rapport à, ouais, à ce poste-là. Ils l'ont, oui, fait quand même pas mal d'années. Il y a eu Pépé, Osimhen. Ils arrivent souvent à avoir le bon flair pour choper des joueurs vraiment intéressants.
Même le Turc. Hein.
Et Tanguy Le Sévillier, rebonsoir. France s'impose contre l'Irlande, début ce soir des qualifications de l'Eurofoot Dames.
Ouais, en 2025 ce sera. On avait quitté les Bleus en finale de la Ligue des Nations, abattus par les Espagnols. Ce soir, elles étaient devant plus de 16 000 personnes au stade Saint-Symphorien de Metz. Elles se sont imposées 1-0 sur ce but de Marie-Antoinette Katoto, bien servi par Maël Lacrar. 28e but en 36 sélections pour l'attaquante du Paris Saint-Germain. On va vous montrer également cette situation, la tête de Jennie Le Sommer, la parade de Courtney Brosnan. Dans le même groupe, un partout à Wembley entre l'Angleterre et la Suède. Le prochain match des Bleus, ce sera mardi soir, justement en Suède, à Göteborg.
Qui a jeté un œil sur la rencontre, sur la victoire des... Ouais, Greg, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Elles ont vraiment ramé. Elles n'ont pas été en danger non plus. La gardienne irlandaise fait un gros match. C'était pas. On était quand même très très loin de l'aisance ou d'une expression aboutie ou d'une. Mais bon, elles ont ramé. C'est des éliminatoires. Il y a 3 points qui sont rentrés. Oui. On va pas non plus faire comme ça. Oui, mais on a quand même eu un truc hallucinant, c'est-à-dire la gardienne irlandaise à 20 minutes de la fin qui prenait un carton jaune pour perdre 2 temps. Quand même. Alors qu'elles étaient douces, quoi.
Non, mais jouer bon comme quoi, voilà.
C'est le vol à l'arrache, ça compte. Non, mais ouais.
Corinne Diacre, qui, c'est vrai, avait beaucoup de défauts, elle a longtemps prouvé, ces matchs-là, elle les gagnait
aussi
avec 3 ou 4 buts d'écart. Et donc, je constate que la marge est de moins en moins importante.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Parce que l'équipe d'Irlande, je crois qu'elle est 25e que la nation FIFA ou 27e.
Et ça, dans le football féminin, quand t'es
25e, là, c'est loin.
C'est plus tout à fait
25e.
Ouais, c'est plus là. Tu vois ce
quand
que
même,
je veux dire.
Quand même, l'écart est considérable. Quand même. Et maintenant, ces matchs-là, tu es gagné 1-0, laborieusement. Bon, faut vraiment faire attention. Moi, je rappelle vraiment que si jamais elles arrivaient à gagner une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, ce serait formidable.
Ouais. L'Euro 2024, on connaît les adversaires des Bleus de Didier Deschamps pour les 2 matchs de préparation avant l'Euro.
Selon les informations du site L'Équipe, l'équipe de France pourrait affronter le Luxembourg puis le Canada. La rencontre face aux Luxembourgeois se disputerait le 5 juin à Metz, non loin de la frontière luxembourgeoise. Le deuxième match de préparation offrirait un duel face aux Canadiens de Jonathan David le 9 juin au Matmut Atlantique de Bordeaux. Ce serait la deuxième confrontation entre les deux pays après la victoire des Bleus au Mondial de 86.
Jean-Pierre Papin, 1-0.
Ouais. 88e ou 89e.
Ça partait 87. Pas très fort.
87
ans.
87. Ouais.
87.
Les adversaires des Bleus à l'Euro, Autriche, Pays-Bas, Pologne, dans cet ordre. Le Red Star d'Abi Bey fait un pas de plus pour la montée en Ligue 2.
Une victoire ce soir face au deuxième avant cette journée. Niort, victoire 2-1. Les joueurs du Red Star sont désormais leaders avec 10 points d'avance à 6 journées de la fin. Ouais. Martigues, vainqueur ce soir, est deuxième à égalité avec Niort. À noter qu'il y aura un gros match entre Niort et Martigues le 26 avril prochain. Je voulais vous montrer également 2 très jolis buts ce soir en national. Il y en a eu 25 au total. Direction le stade Ludovic Juli pour le premier de la soirée entre Gol FC et Cholet. Ce sont les Choletais qui vont marquer loin grâce à Tom Renault qui marque depuis la ligne médiane. Antoine Philippon est trop avancé. Score final 4-3 pour Cholet. C'était un match pour le maintien.
Plus, bon, donc
autre joli but, ouais. Celui de Versailles face à Dijon. C'est signé Kevin Nadje. L'ancien joueur de Lens trouve la lucarne de Robin Risser, le gardien du DFCO. Score final 2-0 pour les Versaillais à Jean Bouin face au DFCO.
Et bien dis donc, notre national a du talent. Hein.
Qui représente
vraiment très intéressant.
Il y a plein de bons joueurs en national. Je peux dire que j'en prends un ou deux, ils remplacent Luis Enrique, les yeux fermés. Là,
ça y est.
Juste sur une action. Là.
Sur le vieux Palu. Qui représentera la France en judo chez les filles dans la catégorie des moins de 78 kilos.
Ouais, il y avait un match entre Madeleine Malonga et Audrey Tcheméo. Et bien, c'est finalement la première qui a été sélectionnée par la Fédération française de judo. C'est déjà Madeleine Malonga qui avait eu la chance de représenter la France aux Jeux de Tokyo où elle avait pris la médaille d'argent. Il faut désormais que ce soit validé par le CNOSF pour qu'elle participe bel et bien aux Jeux de Paris.
C'était suffisamment net pour qu'on écarte, une championne olympique puisqu'elle a été, voilà, elle a quand même fait ce qu'il fallait faire.
Ouais, elle a gagné à Antalya.
Oui, et puis on l'a remise à touche-touche à un moment donné, alors c'est qu'elle cruel. Avait un peu d'avance. Elle a refait l'effort. Enfin bon, une championne du monde.
C'est cruel quand même.
Une première en France, le numéro 9 de Tony Parker a été retiré de l'équipe de France.
Ouais, la légende du basket français aura donc droit à cet hommage. Son numéro 9 sera retiré, donc plus jamais porté en équipe de France. Une cérémonie aura lieu le 12 juillet prochain, avant le match de préparation au JO entre la France et la Serbie. On vous rappelle, hein, tous les matchs de préparation des équipes de France de basket masculine et féminine seront à suivre sur la chaîne L'Équipe. Ce sera le 12 juillet pour cet hommage à Tony Parker.
Vous me connaissez, je fais souvent des tours sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de surfer. Non mais, les jeunes de la bande, là, qui ont... Ils m'ont dit, tiens, c'est drôle, ça buzz un peu, en disant, il y avait beaucoup de gens qui étaient choqués, en disant, on peut retirer un numéro d'un joueur au club, mais en sélection nationale, je sais pas, ça passait pas pour certains. Voilà,
même les jeunes, alors.
Ouais, moi, je suis d'accord. Même les jeunes. Ouais,
je suis d'accord aussi, ouais, c'est pas, je trouve, une équipe nationale, tu représentes, c'est un pays, c'est pas, voilà, ça appartient pas aux joueurs, c'est pas quelque chose qui se
dit. Gino Billy avec l'Argentine a vu son maillot retiré.
Ouais, mais je trouve ça quelque chose visuel en club. Je trouve ça pas très cohérent par rapport à ça.
C'est la victoire d'une culture.
Non, mais ce qu'on associe sur on associe moins,
en sélection,
on associe quand même moins les numéros avec les joueurs. Voilà, les joueurs ils sont de passage, ils prennent. Alors que sur les clubs, ça a quand même plus de sens.
Tu joues 80 matchs par an.
Ouais, ça a plus de sens, quoi.
Grotesque. C'est grotesque.
Il est bon.
C'est complètement grotesque. Et dans Milan, alors on sera plus là, mais on fait comment alors?
Ils remettront.
Tu vas me dire, depuis que l'Olympique de Marseille a quand même tiré le numéro de Souleymane Diawara.
Voilà.
Redonner quelqu'un.
Ils ont changé. Ils l'ont redonné depuis.
Tu sors la boule et tu la remets au bout de 10 ans, comme ça elle revient dans le.
Et puis après, il faut respecter les cultures. Non, mais il faut respecter les cultures aussi des sports, les cultures des pays. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a parfois de très belles cérémonies avec ces maillots qui sont retirés, qui sont après, mais ils sont dans des salles, ils sont exposés dans des salles, il y a le numéro. Ce sont des très belles cérémonies. C'est la culture du sport là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais non, pas là. Ouais. Ben non, c'est grotesque. C'est comme quand les Français, quand ils avaient voulu faire leur bague, là, vous vous souvenez, après le titre de champion du monde, là. C'est ridicule, en fait. À un moment, chacun sa culture, chacun son sport.
Ça, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est plutôt bien. C'est un geste. Tu peux t'inspirer de certaines choses qui sont la bague.
Ce qui compte, c'est l'histoire de la bague aux États-Unis, par exemple, avec le titre NBA, par exemple.
C'est pas grave. Tu peux t'en inspirer de ça. Ça reste.
C'est un coup comme ça.
C'est comme en musique. Il y a plus de frontières.
De manière générale, je trouve que
on sait plus quand il fait des blagues.
Tu peux pas reprocher
au sport d'avoir de la mémoire.
C'est toi, Mathieu.
Or, c'est quand même de ça qu'on parle. Parker, c'est quoi? C'est quand même un mec qui, pendant 15 ans, contre l'avis de sa franchise, qu'il payait des millions de dollars, s'est débrouillé pour être libre. C'était pour être libre en sélection, pour aller se taper les Suisses ou les.
D'ailleurs, c'est un autre problème, bon. Ça, non?
Non, c'est pas leur problème.
C'est un autre problème.
Oui, non, c'est pas d'ailleurs un problème. C'est un mec qui a beaucoup plus donné. Oui. C'est un mec qui a beaucoup plus donné en équipe de France qu'il n'a pris.
Le geste, on ne remet pas en question le geste.
En équipe de France, il a beaucoup plus donné qu'il n'a pris. Alors, ça, on peut me le faire. Donc, ça me gêne un peu. Enfin, moi, ça me dérange pas.
Aux États-Unis, ils l'attendent pas pour le business. Hein. En France, il essaye d'en faire.
Non, mais.
Mais pas aux États-Unis, ils l'attendent pas. Hein.
Quand il était joueur, en tout cas. Faut mettre. Il y a même des partenariats que faisait. Enfin, on va en parler. Il y avait des partenariats que faisait la fédération sur son dos, où il acceptait de pas prendre un rond pour que la fédé puisse un peu vivre. C'est un mec qui allait assez loin.
Il en prenait. Même, je l'ai vu il y a pas longtemps pour un documentaire sur Mbappé. Même lui, il disait, moi, à un moment, je leur ai dit stop à la fédé. On négociait. Je sais très bien que vous vendez. Sur mon image, donc moi aussi je touche plus, il le dit lui-même.
Si vous voulez la marque, si vous voulez l'année, moi je peux vous expliquer.
Est-ce que vous voulez que je vous fasse un quart d'heure sur l'acculturation du sport?
Non, on va pas passer.
Les valeurs,
l'identité.
On file aux États-Unis le fils de LeBron James, candidat à la prochaine draft, Tanguy.
L'histoire est très belle, car LeBron James en rêve de jouer avec au moins une saison avec son fils, hein, Bronny. Ce dernier s'est déclaré candidat pour la prochaine draft en 2024, qui se déroulera au mois de juin. LeBron James est encore sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec les Lakers, avec une année en option qu'il peut activer lui-même. Cela dépendra évidemment sûrement de ce qu'il se passera lors de cette prochaine draft.
Et là, ça va être la bataille quand même pour récupérer son fils, les franchises là. C'est-à-dire que si vous le récupérez,
tu récupères les deux.
Bah, c'est ça que ça veut dire. Je veux dire, c'est les Rockets de Houston ou je sais pas, une autre équipe qui n'est pas pour l'instant tout en haut, si elle récupère le fils de LeBron, elle peut faire un an avec LeBron dans sa franchise et peut-être sa dernière saison.
Et le papa. Ok. Le fils plus le papa. Encore une chute aujourd'hui sur le Tour du Pays Basque. Et en plus, c'est un top coureur.
Ouais, après Vingegaard, Evenepoel et Roglic hier, c'est Mikel Landa qui a goûté le bitume ce vendredi. On n'a pas la chute en image malheureusement. Rassurez-vous, il est bien vivant. Oui, malheureusement, pardon, je ne sais pas les dire. Il souffre d'une fracture de la clavicule gauche. Il a évidemment dû renoncer à la suite de la course sur ce Tour du Pays Basque.
David Lapartien, le président de l'UCI, propose des mesures d'ailleurs pour endiguer ses chutes à répétition. Arrêtez de souffler, Grégory. Il n'a pas encore donné sa résolution.
C'est pas moi qui souffle.
Ah, c'est qui?
Je veux pas balancer, mais c'est pas Grégory. C'est un de ses voisins.
On n'est pas sur une guerre des voisins.
Bon, Nabil, arrêtez de souffler. On voit 50% des chutes qui sont dues à l'attitude des coureurs, nous dit David Lapartien, le patron du cyclisme mondial. D'où aussi notre volonté de mettre en place cette année un principe de carton jaune et carton rouge. Comme au foot, pour les attitudes dangereuses, qu'elles soient mieux sanctionnées. Alors, des cartons des rouges, jaunes, pour limiter les chutes. Est-ce que c'est une solution ou un gadget? Allez, on y va pour le débat du Minuit Info, jingle. Gadget pour Grégory Schneider.
Oui, c'est un gadget parce que c'est difficile de savoir quelles sont les responsabilités. Le mec a peut-être vu un truc qu'on n'a pas vu, donc il a fait un écart, donc c'est extrêmement compliqué. Et ça judiciariserait, enfin en tout cas ça rajouterait des règles ou ça entasserait des règles qui seraient sujettes à caution. Oui, mais il a fait ça, oui, mais j'ai bien vu qu'il a fait ça, mais il y avait Jess qui disait ça. Et nous, on n'est pas au milieu du peloton. Ah oui, donc ça semble être une usine à gaz qui Mathieu... Alors, j'en parle avec respect pour... Parce que l'appartient, c'est pas n'importe qui quand même. Mmh. Mais je trouve que ça répond pas. D'autant qu'il y a des pistes qui me semblent infiniment plus
cohérentes. Mathieu Van Der Poel sur le site L'Équipe, on proposera les pistes. Mais lui a un constat qui est similaire à celui de David Lapartien. Et il roule. Je crois que l'élément le plus dangereux du cyclisme, ce sont les coureurs eux-mêmes. On prend les risques et c'est le problème principal. Tout le monde veut être devant au même endroit. Et ça, c'est pas possible.
Mais ça va pas changer parce que tu vas mettre un. Oui. Voilà, ils ont envie. Ils savent que si t'as pas la meilleure place à l'instant T, et donc ils vont pas calculer alors qu'ils sont à 60 km/h sur leur vélo, en se disant attends là faut pas que je mette le coude
parce que j'ai un carton. Ouais.
Le problème c'est le progrès technique.
Bah voilà.
C'est ce que disait David Lapartien.
Le veuille ou non. C'est-à-dire que les vélos sont ont tellement changé de dimension en fait en quelques années. Qu'ils peuvent freiner au dernier moment. Ils ont des freins qui sont tout à fait différents de ce qui existait il y a 15 ans. Allez. Des freins à disque. C'est extrêmement dangereux en plus parce que c'est extrêmement tranchant. Mmh. Donc en cas de chute, ça peut être terrible. Et ils peuvent prendre des risques inconsidérés.
Attends, prenons l'exemple. Moi, je vais aller dans le sens de l'appartient. Ouais. Je trouve que responsabiliser les coureurs et dire que attendez, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas prendre tous les risques. Et de dire, à un moment, c'est lui qui prend le risque. Et de faire attention pour que la fois d'après, il puisse être sanctionné.
Ça va les calmer au début.
En moto, ça arrive. Les mecs, la moindre faute, ils sont pénalisés. Ouais. En automobile, parce que c'est dangereux, ils sont pénalisés. Il y a des comportements à risque que tu ne dois pas avoir. Et je trouve que c'est logique.
Raymond, je suis plutôt d'accord à la base, mais c'est vrai que l'argument... De Grégory est pas mal.
C'est quoi son argument?
Il dit, dans un peloton où il y a 50 gars, tu vois pas tout. Dans un peloton où il y a 50 gars,
il y en a 10 qui peuvent gagner.
Non, plus maintenant.
Au sprint, sur le sprint, il y en a 10 qui peuvent gagner.
Mais en plus,
ils essayent de revenir, de se repositionner. Mais tu dois avoir des règles. Je veux dire que quand il n'y a rien pour passer et que tu essayes de passer et que tu es obligé de t'écarter, tu fais une faute. C'est une faute.
Non, mais ça existe. Moi, on a vu des mecs déclassés. On a encore vu des mecs déclassés du Tour des Flandres il y a une semaine. Non, mais ça existe.
Je pense qu'il faut amplifier ça.
J'ai un petit truc à vous dire. On est tous d'accord pour dire que ça va trop vite.
Oui, mais d'accord.
C'est technologique. Est-ce qu'on peut ralentir les vélos?
Un compteur, c'est facile. Je vais peut-être dire une énorme bêtise. Si je suis ridicule, vous n'hésiterez pas à le dire, je le sais. Mais il y a des compteurs.
Ouais.
Bon, qu'est-ce qui interdit à un moment dans les zones dangereuses, avant des virages, avant des...
Les mecs arrivent
à 70 à l'heure.
Excusez-moi,
mais alors on fait comment?
Non, mais moi aussi j'ai imaginé ça. Mais en fait, c'est anti-course. Vous allez demander à des mecs qui sont payés,
un jour ils vont arriver à.
Donc là, il y aura des
zones à l'heure alors.
Mais non, mais.
Et puis il y en a un qui va passer.
Donc après, bah, les mecs, ils vont essayer de passer.
C'est, non, c'est comme si tu disais, t'as sprinter, bah, écoute, ouais, entre le 40e et le 50e mètre, bah, ouais, tu dépasses pas là. Non, c'est
la dangereuse. Dans les zones dangereuses, il y a un moment, il va falloir trouver des solutions.
Il y a d'autres, choses.
Vous préférez qu'il y ait des morts, il n'y a pas de problème.
Non,
mais il n'y a pas de souci. Vous aimez le sang. Mais moi, je préférerais surtout l'odeur du sang.
Comme dirait Raymond.
Mais
c'est important.
Mais ralentissons les vélos.
Comment on fait?
Comment on fait? On les alourdit. Non, mais on les alourdit. On les. Il y a bien des choses.
On les bride. On les bride.
Ça n'a pas d'enchance.
Ça va dans le sens de la course.
Ça va dans le sens de la course.
Non, de ralentir les vélos, de ralentir, d'avoir des jauges, d'interdire certains progrès ou en tout cas de ralentir les vélos, ça va supprimer la vitesse.
D'accord, mais
si la vitesse est un problème,
à quelle curseur alors tu estimes que ça devient plus dangereux? À 50, à 40, à 30?
Ça, c'est au spécialiste. Non, mais là, mais pardon, là, moi, je suis pas spécialiste du vélo, du cyclisme. Mais il y a des choses très certainement pour ralentir
les vélos. Vous aussi, vous dites une
bêtise. En tennis, lorsqu'ils veulent ralentir le truc, ils font un travail sur les balles et un travail sur le revêtement.
Je suis totalement d'accord.
Voilà. Donc, si le problème, c'est la vitesse...
Changeons le revêtement des routes.
Bah, il faut changer le revêtement des routes.
Que des cailloux.
Mais il y a on n'a pas pensé. Dans le sable. Si je puis me permettre.
Ça prend pas un quart
d'heure. Parce que quand on dit une bêtise, on est
pas tout seul. Si vous regardez les blessures, c'est souvent les mêmes.
Les mêmes. On est d'accord.
À un moment, tu vas pas pouvoir... Non, mais ils ont mis les casques, par exemple, parce qu'il y a eu des morts. À un moment donné,
il faut mettre la combinaison.
Tu mettras comme un motard, parce que de toute façon, on va...
L'airbag. Voilà. Tu ne
pourras pas faire... Non, mais tu ne pourras pas faire autrement.
Donc, les mecs vont arriver à 130 à l'heure dans
Valentino Rossi, t'arrives avec ton casque.
Et comme ils ont l'airbag, ils vont se dire, allez, hop, j'y vais. On ne sait jamais si ça passe. Je vais peut-être gagner la course. Et alors là, ça va être un autre sport.
Oui, mais
vous allez inventer un autre sport.
Attends, mais il y aura moins de blessures.
Je ne sais pas, parce que si le mec, il a airbag mais qui se tape un arbre.
Ah bah il a pas l'airbag devant.
Non mais
devant.
Le mec s'il se tape un arbre, il se tape un arbre.
Non mais reconnais que
on pourra pas enlever
c'est tout ce que tu dis.
T'as qu'à couper les arbres.
C'est tout aussi absurde que ce que je dis alors.
Mais non.
Mais si. Parce que les mecs vont aller de plus en plus vite, ils prennent des risques. Il y a un très bon dossier aujourd'hui, pour le coup, dans l'équipe de 3-4 pages. Les gens s'expriment et oui, ils prennent de plus en plus de risques. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui arrive à passer. Le mec arrive à passer à 90 à l'heure, il dit putain, je vais essayer à 95. Et ça passe. Ah, c'est pas passé.
Ah, mais faut y aller au 95. Faut y aller au 95. Ouais, c'est de la performance.
Si tu veux dire 70, tu... Mais c'est pas la question.
Non, mais c'est pas
la question, c'est que s'il y a un arbre en face, ton airbag, il va pas te servir à grand chose.
Ah, ok. Mes amis, à noter qu'on a des nouvelles 70, informations sur l'état de santé de Jonas Vingegaard qui avait chuté hier.
Oui, il souffrait d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes cassées. C'est pas tout, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'il avait été victime d'une contusion pulmonaire et d'un pneumothorax. Il devrait être absent entre 2 et 3 mois. A noter également que Wout van Aert, qui était tombé sur à travers la Flandre, était victime d'une fracture de la clavicule, de plusieurs fractures aux côtes et d'une contusion à un poumon. Il a également une grosse, grosse brûlure au dos.
On revient autour du...
Et le tour alors, il y sera
dans quel état?
3 mois.
Non, mais il y avait un bon espoir apparemment. C'est ça qui paraît fou.
Non, mais ouais. Le problème, c'est l'impact sur sa préparation.
Le pneumothorax.
Ça va relancer le débat sur...
Les amis, une chute qui n'a pas neutralisé la course aujourd'hui, un vainqueur français en Espagne, au Pays Basque.
Ouais, sur cette cinquième étape, ça s'est conclu au sprint avec la victoire de Romain Grégoire. C'est son premier succès sur le World Tour pour le coureur de 21 ans. Sixième victoire en carrière. Il appartient à l'équipe Groupama FDJ. Quentin Paché, son poisson pilote, l'a parfaitement lancé. Il termine quatrième de l'étape. Au général, c'est Mathias Jensen qui est leader. Romain Grégoire, on l'a vu sur le podium, il est cinquième du général.
Région Pays de Loire Tour, c'est vraiment le nom. Hein. La dernière étape, c'est joué aujourd'hui.
Deuxième victoire de la semaine pour Marijn Vandenberg qui remporte également le général. Les dernières secondes de la course avec Patrick Chassé, Christophe Riblon et Pierre Roland en commentaire.
Turini devant Vandenberg et Van Boven juste derrière. Vandenberg qui prend maintenant l'ascendant. Vandenberg qui est en tête. Turini va-t-il pouvoir revenir? A-t-on lancé le sprint de trop loin pour Vandenberg? Il se retourne avec Ossefroy qui remonte en finalement. Vandenberg qui remporte à la fois l'étape et qui remporte le classement final de ce Région Pays de la Loire Tour.
La Ligue 1 Express à présent. Merci Tanguy. 28e journée de Ligue 1 avec quelques petites sorties remarquées en conférence de presse. Nantes-Lyon, dimanche 20h45, un match sans spectateurs. La Beaujoire a frappé d'un huis clos car sanctionné pour des fumigènes de la Brigade Noire il y a quelques semaines qui fêtaient leur 25 ans. Antoine Comboiré n'est pas d'accord avec ce huis clos et l'a dit en conférence de presse.
C'est vrai qu'il faut sanctionner, mais vous sanctionnez les gens qui jettent des projectiles sur le terrain, vous sanctionnez les gens qui rentrent sur le terrain, qui n'ont pas le droit d'être là. Vous sanctionnez quand il y a de l'insécurité pour les spectateurs. Et sanctionnez pas tout un stade. Et aujourd'hui, vous êtes en train de négocier les droits TV et vous allez faire un match le dimanche à 20h45 à huis clos. Mais c'est une absurdité. Une grosse connerie.
Tu négocies les droits TV. Est-ce opportun ou opportuniste ?
Bah, c'est d'un opportunisme c'est pas... consommé.
C'est pas opportun.
Mais pourquoi ? Déjà parce qu'il essaie de faire plaisir aux supporters, donc à bas coût, il se les met dans la poche. Ensuite, on peut ouvrir le débat des fumigènes, c'est autre chose. Mais si on part sur des règles, on les suit. On va pas arrêter de les parce qu'ils sont dans la galère à cette journée de la fin ou qu'il faut et que tu vends les droits. Enfin, je vois pas le rapport. Tu changes pas les règles au milieu du championnat. Or, c'est de ça que c'est.
Non, mais c'est ça le problème. Ouais, c'est complètement absurde depuis des années. Moi, ça me rend fou. Ouais. Chaque année, on a le même débat. Chaque année, c'est toujours la même chose. Les fumigènes, ça me débecte. J'ai l'impression que les gens qui sont dans les instances, elles ont jamais joué au foot. Tu rentres sur un terrain, il y a rien de mieux que d'arriver dans un stade en folie avec fou, voilà, ça fait partie du
faut coup. L'encadrer quoi.
Et en 2024, il y a toujours aucun moyen de pouvoir encadrer ça. Il y a des gens des professionnels pyrotechniques qui pourraient venir accompagner les COP, mettre des sécurités. Et, généralement, les fumigènes, ils sont pas, c'est pas pendant 90 minutes, c'est à l'entrée des joueurs et peut des fois de temps en temps pendant les buts. Mais t'as quand même moyen de pouvoir encadrer les choses pour que ça puisse. Ils sont toujours impressionnants, ils sont toujours là avec leur calepin. Dès qu'il y a un fumigène, tac, allez, bam. Voilà. Il a raison de le dire Camboire ça
parce que je suis pas d'accord parce que le fumigène reste un objet dangereux que tu mets au milieu de spectateurs
dans les circonstances actuelles.
Je veux dire dans cette situation là le problème c'est il y a une commission de discipline je veux dire qui juge et qui est indépendante et heureusement qu'elle est indépendante et elle s'occupe pas des droits télé et de savoir si on doit sanctionner ou pas. Il y a
ça c'est deux choses différentes évidemment.
Je réponds à cette première problématique. Le deuxième truc sur le pyrotechnique, si on peut on a le droit de mettre des pétards de partout, allons-y. Il va falloir des gens pour accompagner les gens qui mettent les barres de pétards au milieu des spectateurs.
Mais il y a déjà eu des dégâts, mais t'as moyen de
mettre une zone. Il y a eu des zones qui ont été faites, des zones pyrotechniques, mais à des moments, on va dire, extrêmement.
À la limite, tu vas libérer tes deux premiers sièges des rangs, des tribunes. Tu vas dire, OK, voilà, tu vas installer des professionnels qui vont être là, qui vont faire ça en relation avec les corps.
Sincèrement, est-ce qu'il y a besoin de mettre le feu dans le stade, d'avoir de la fumée, pendant un quart d'heure où tu peux pas faire le match et tu es obligé d'attendre le début du match?
C'est ce qui te fait vibrer quand t'es joueur, tu rentres sur un terrain, t'es là, il y a des fumigènes partout.
Non, moi je préfère les drapeaux, tu vois, les drapeaux, ça gêne personne.
Je me regarde à l'Olympiakos, vous lui dire que vous rentrez sur le. Avant de pouvoir voir quelque chose sur le terrain, il vous faut au moins un quart d'heure.
Mais c'est ça qui fait vibrer. Est-ce que c'est bien? Ça te fait vibrer, toi.
Exactement. Vous pouvez dire à n'importe quel joueur
que tu étais obligé d'attendre un quart d'heure pour jouer.
Eh bien, c'est pas grave, on va attendre un quart d'heure, les gens, t'as vibré, t'as vu un stade en folie, de la lumière partout.
C'est ça qui est beau. Le spectacle, c'est pas dans la tribune. Le spectacle, il est sur le terrain.
Ça fait partie. Mais non, coach.
Mais non, pas. C'est une aberration.
Je sens que ce n'est pas votre coach. Je sens que c'est le président de l'équipe du soir. Connexion au VAR de l'équipe du soir. Si vous avez raté quelques épisodes de la semaine, nous avons un arbitre professionnel qui va vous faire le résumé de cette semaine un peu particulière. Monsieur André Alice s'approche du plateau avec ses cartons en main. A tout de suite, mes amis. Dernière ligne droite de l'équipe du soir, mes amis. Mathieu, ne prenez pas trop la confiance. Laissez la une de l'équipe présentée par Tanguy Le Sévillier, s'il vous plaît.
Lille est troisième de Ligue 1 ce soir et Lille éclipse l'OM sans doute pour la Ligue des Champions en fin de saison avec cette victoire. Ce soir, 3-1 à Pierre-Mauroy.
La VAR de l'équipe du soir, si vous avez raté la semaine de l'équipe du soir, séance de rattrapage ce soir avec un arbitre professionnel qui va rentrer, mais juste après le jingle.
Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Bonsoir. Toujours après le jingle, c'est très important, c'est une règle d'or.
D'arriver en courant. Hein. Ouais. Je sais pas s'ils ont un truc à prouver.
Mais en régie, vous me mettez un carton rouge direct à cette Tarago, c'est pas possible ça. Vous me le mettez
en prison. C'est
l'arbitre Liga, hein. Que je puisse me faire la chronique tranquille, c'est pas vrai. Bon, je voulais revenir tout d'abord sur quelque chose qui s'est passé au tout début de l'émission.
Ah ouais,
c'est Nabil qui a tenté, comme on appelle dans le métier, une Eric Blanc. Donc Mémé, vous l'avez pas loupé, Nabil, forcément.
Ouais. Moi, on m'avait promis la Paramount. Tout ce que vous voulez avec...
Pardon ? Ouais, non, vous allez nous faire Danny Boulle.
J'allais faire Mandel. Non, on m'avait promis une super production. Avec l'OM, on est sur un court-métrage, tout simplement. Là, cet OM, c'est un court-métrage.
Mmh. Surtout mieux avec Eric Blanc.
Bah alors, pour le plaisir, Mémé, on regarde l'original. Hein.
Bah, oui.
Alors, regardons l'original.
Vector.
On m'annonce mission impossible, le retour, avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. Donc moi, j'ai un immense respect pour sa carrière. J'ai un coup de froid.
D'ailleurs, ça me permet de faire un petit teasing. Restez bien parce que Eric Blanc nous a fait une très très grande semaine.
Ah,
donc on va être obligé de revenir dessus.
Il y a du ric-obstruction.
Ah, il y a de la ric-obstruction. Mais pour le moment, je vais me permettre de siffler le coup d'envoi de la VAR de cette semaine. On y va.
On y va.
Et ce qui est bien avec l'équipe du soir, c'est qu'on est toujours premier sur les infos, n'est-ce pas, Mémé?
Ouais, c'est rarissime hein, dans l'histoire du journal. Il y avait 15 personnes.
Mais combien, Benoît Bastien, dimanche?
Je sais pas. J'en sais foutre rien, mais on va se renseigner, vous inquiétez pas.
Oui, au moins on est sincère. Et Mémé, il y a une chose qu'on ne peut pas vous reprocher, c'est que vous êtes toujours au petit soin pour vos coéquipiers, notamment avec Pia.
Et moi, ça m'a intéressé parce qu'on a retrouvé une connexion avec son voyant en début de saison. Mmh. Ça y est, je te saoule déjà.
Non, j'ai noté.
Oui, à la VAR, on a remarqué qu'avec Pia, il se passe un truc.
La surprise, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme, c'est on se tutoie maintenant.
Oui, c'est ça.
Non, c'est rien.
Si vous me le permettez.
Mais le problème, Mémé, c'est que vous étiez à ça d'avoir votre verre avec Pia, mais vous avez posé la mauvaise question.
Bah, Régis, je veux juste avoir un plan sur Pia Clément.
Il m'a dit je vais te tuer, je vous préviens.
Vitinha.
Ouais.
Verratti s'est oublié là, il l'a remplacé.
Mais ça. Mais ça.
Et oui, pas de rendez-vous avec Pia, mais nous à l'équipe du soir, on s'en fout. Notre spécialité, c'est pas les infos, c'est pas la drague, non. Nous, notre truc, c'est les diagnostics médicaux.
En ce moment, vous faites une petite Mbappose. Hein. Alors, vous allez passer dans mon cabinet, je vois. Une petite irritation à la Mbappose. Ou presque peut-être une petite Mbappite, et là, c'est plus grave.
Vous avez des médiocres?
Ah oui. Ce que je sous-entends, Mbappose, c'est léger, petite irritation, crème. Mbappite, plus grave. Comprimé.
Et mais le problème, c'est qu'après les comprimés contre la Mbappite, il y a des effets secondaires. Alors, écoutez, ça, c'est Karine avant.
Le très bon dossier sur ce problème-là, il y a un médecin qui dit...
Et ça, c'est après les comprimés Mbappite, alors tendez l'oreille, c'est impressionnant.
Et moi, je trouve que les mères Fournier qui disent tout de suite « ne soyons pas trop excessifs », etc.
Ah oui, ça, c'est Mémé qui a utilisé les mauvais comprimés, du coup, on n'a pas le même résultat, quoi.
Nous avons eu en direct sa réaction. Oh non, je sors déjà, c'est pas possible. Oh, voilà.
Ouais, bah, c'est moi bien. La prochaine fois, Mémé, on utilise les bons comprimés, s'il vous plaît.
Oui, pardon.
Bien sûr. Ouais, pour cette semaine, beaucoup de boulot, notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un président de l'équipe du soir qui a enchaîné faute sur faute sur faute. C'est la réconstruction de la semaine.
Ah,
bien joué. Oui, car en début de semaine à la VAR, on a cru qu'on allait avoir un Eric Blanc un peu rouillé.
Vous savez, le petit truc de judo, là, comment on dit ?
Adjimé.
Adjimé.
Mais vous le savez, Rico Blanco de la Plata n'est jamais rouillé. Et quand on réveille le loup qui dort, il se passe ça.
Mais c'est l'histoire du PSG.
Attendez.
C'est quoi le rapport avec la question?
Eh ben, on s'en fout. Mais c'est pas préoccupant. Et endors-toi tranquillement dans les bras de Giovanni.
Dimanche, il a décidé.
Il n'y a pas de souci.
Eh oui, pas content du tout, Eric.
Je ne peux pas mettre Colomoigny, Ramos toujours avec zéro minute. C'est impossible. Vous êtes nuls, je te le dis, vous êtes nuls. Or, restez journaliste, rentrez pas dans un vestiaire, managez zéro personne. Je vous le dis, zéro.
Et oui, ce qui est bien avec la reconstruction, c'est qu'on sait toujours qu'il finit par parler du même sujet, forcément.
Mais juste une chose, Messi, je termine là-dessus.
Oui,
Messi, il marchait, il a été quand même champion du monde. Oui. Mais il avait 36 ans.
On s'en fout.
Messi a 25 ans.
On sait qu'il
ne ratait pas un match.
On sait qu'il
t'entends bien, revois les, cas, okay. Les trucs, les buts.
Et oui, Mémé, vous avez essayé de le stopper. Pourtant.
Je vous aime, Mémé.
L'envahissement sur ça.
Non, Eric, on n'a pas le temps.
Non, mais c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. On s'en fout.
Non.
John Textor.
Bon, et après, vous êtes imposé, Mémé. Vous nous avez fait à votre tour une petite, non pas ric-obstruction, mais une mémé-obstruction. Le sujet, c'était Ousmane Dembélé.
Ah, c'est pour ça que je suis frustré quand je vois les matchs d'Ousmane Dembélé. Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'il entreprend et la finition, quoi. Il y a un décalage. C'est Maradona, puis tout d'un coup, c'est Gilles Soulou, quoi, à la finition. Non, enfin, c'est une image. J'ai rien contre Gilles, mais.
Il
s'est blessé. Je proposerais bien une minute de silence pour Gilles, mais on n'a pas le temps.
Il y a un décalage entre.
Oui, il y a un décalage. Bon, ouais, nous prenons pas la tête, mais ça ne mérite pas de carton. Allez, on continue avec ces tacles qui méritent des cartons rouges. C'est les jeux dangereux de la semaine.
C'est mérité, Alors, vous étiez là hier, vous étiez là ce soir?
Ouais.
Ça va, pas trop de survolage?
Ça va,
allez.
Je travaille un peu plus que Deschamps, même.
Ce selon le docteur Penaud, victime d'amnésie. Vous irez à son cabinet consulter. Ne vous inquiétez pas.
Il a pris autant de notes pour
tout
ça.
Qu'est-ce que j'ai été
perdre contre Hervé
Penaud. C'est une phrase catastrophique.
Perdre contre toi. Aucune culture footballistique.
Parce que c'est très partagé en plateau. J'ai pris deux gens qui sont un peu extérieurs au football pour avoir un œil un peu détaché.
J'ai quand même surpris par les arguments d'Hugo Guillemet qui utilise des arguments d'anciens joueurs professionnels alors que lui, je ne suis pas certain qu'il ait souvent tapé dans un ballon.
S'il me reste 4 dixièmes, oui, je pense que ce sont des gars qui pissent c'est des gars qui pissent très froid quand même.
Et ça dépend quand on regarde quand Ongarté entre en jeu ce soir, il passe au poste de numéro 8.
Oui, c'est vrai.
Tu sais, parce que heureusement, on a regardé le match. Et voilà.
Ok, très bien. C'est duel courtois. Chacun défend ses positions. Tout va bien.
T'étais meilleur que prévu.
Ouais. On embrasse Timothée qui a été meilleur que prévu, comme l'a dit Jérôme. Et pour conclure, c'est le moment de connaître les joueurs suspendus de la semaine. C'est la commission de discipline. Et pour un match de suspension, c'est Giovanni Castaldi pour ses conseils en relation amoureuse.
Il y avait une vraie relation d'amour et de haine. Là, c'est de l'indifférence, en fait. Et l'indifférence, c'est jamais bon signe. C'est comme dans un couple, mon cher Messaoud.
C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Giovanni. Giovanni, à minuit 26, un dimanche.
Et oui, belle leçon. Président Roustan, une analyse.
On voit qu'il y a du vécu.
Avec Karine Galli, une réaction.
Mais je m'en fous.
Ok, j'enchaîne alors. Pour deux matchs de suspension, maintenant, c'est Olivier Rouillet. Car Olivier Rouillet, c'est le roi de la mauvaise foi. Alors, contexte, on parle d'Engapet qui pourrait être porte-drapeau pour les JO.
Ah non, mais je vous le dis.
Deuxième chance, les trucs, non?
Non, mais les deuxièmes chances, arrêtez de me gonfler avec vos deuxièmes chances, s'il vous plaît.
Coupable.
Avis. Mais c'est pas ça.
Coupable.
Mais c'est pas ça. Moi, un porte-drapeau, c'est quelqu'un qui doit être tout blanc.
Ah oui, attention, parce que sorti de son contexte, cette phrase-là.
Porte-drapeau, c'est quelqu'un qui doit être tout blanc.
Oui, enfin, bref, vous l'avez compris, pour Olivier Rouillet, le porte-drapeau, c'est super important. Du coup, question pour Guillaume Dufy.
J'ai fait les Jeux Olympiques.
76.
J'ai défilé, je sais ce que c'est.
Non, mais... qui portait le drapeau chez toi?
Je me rappelle pas.
C'est hyper important.
Deux matchs de suspension, ça lui permettra de consulter pour ses problèmes de mémoire. Et puis pour trois matchs de suspension, c'est vous, Mémé. Mais ça, c'est parce que vous aviez un message super important à faire passer cette semaine.
C'est vrai?
Elle s'est trompée deux fois. Voilà. Deux fois.
S'il vous plaît, Ricky. Vous venez là, mon petit Ricky, puis vous faites l'émission.
Mais
doucement, Eric.
Mais pas doucement, parce que.
Doucement, Eric. J'ai fait une école des questions. Mes parents s'en étaient pendant 20 ans.
Mais mieux qu'on
va y aller.
Et oui, cette école de questions, elle est hyper importante pour vous. D'ailleurs, vous en reparlez souvent.
Olivier, je répète à longueur d'émission que mes parents m'ont financé une école de questions. Je ne sais pas, vous, il faut que vous fassiez une école de réponse.
Ça va.
Bon, alors du coup, exemple de bonne question, Mémé.
Olivier, vous êtes comment en slip de bain?
Elle est belle la question. Bien joué l'école de questions.
Trois matchs.
Ouais, trois matchs, c'est mérité.
Matchs, c'est bien.
On est d'accord.
C'est bien.
Et on se dit à la semaine prochaine. Hein.
Ok.
Sans sursis.
Salut, mon Hugo.
À bientôt, Mémé.
Merci. Salut. Il y aura-t-il des reconstructions là, la semaine prochaine? On verra. Quiz à présent. Et quiz. Il n'y a pas de duel, donc pas de joker. Mais
il y a du temps ou pas?
Mais je ne sais pas s'il y a du temps.
Non.
4 minutes.
Parce que ça demande une gestion.
Lille OM ce soir, 28e journée. Ça demande une gestion. J'ai porté les couleurs du LOSC et de l'OM. OK? Première question et premier indice. J'ai joué ce soir. Comment?
Cabella.
Bien joué.
Cabella. C'est Cabella.
Cabella?
Non, Cabella, c'est pas, c'est pas ça.
Non, mais j'ai dit n'importe quoi.
Je suis formé. Oui.
Bah alors,
non, je suis formé à Milan. C'est pas lui en fait.
Ah oui.
Mais ça aurait pu être lui, mais je suis formé à Milan. Je joue actuellement à l'OM.
Oh punaise.
Ouais. Je suis attaquant.
Oh, pas Milan. Je l'ai dit en premier.
Ouais, c'est vrai. Nabil 1-0.
Franchement, on n'a pas été bon.
Allez, mes petits. J'ai joué seulement 9 matchs avec le LOSC. Lille-OM. J'ai joué seulement 9 matchs avec le LOSC.
Cette année?
Non. Je suis parti après avoir critiqué mon entraîneur Jocelyn Gourvennec. Non.
Est-ce que je peux revenir?
Non.
Non.
Payette, non. Je suis parti après avoir critiqué mon coach Jocelyn Gourvennec. Vous n'oubliez pas de ça?
Mais Ben Arfa.
Bah oui. Ah. 3 points pour Sébastien Tarragon. Attention. je suis sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2014.
Cabella.
Cabella, 4 points supplémentaires pour Sébastien.
Raymond, tu peux bloquer un peu Seb hein, quand tu...
Non, personne. Non, personne, il n'y a pas de joker, Nabil.
Ils n'ont pas de joker.
Avec Lille, je remporte la Ligue 1 et la Coupe de France. Attention, c'est vicieux. Le thème, c'est « J'ai porté les couleurs du LOSC et de l'OM ». Ou « Je suis passé », pardon. « Je suis passé ». Avec l'OM, je vais en finale de la Ligue Europa.
Adil Rami.
Rudy Garcia.
Non, mais non, mais il lui a
donné. Rudy Garcia.
Si, si, j'ai entendu parler.
Franchement, non, franchement, j'avais.
Bah, non, mais alors. Hey, Greg, c'est lui qui te l'a dit.
J'ai entendu.
Mais quel menteur, regarde sa tête. Regarde sa tête. Mais quel menteur, j'ai entendu. Et moi, tu sais, regarde, la différence entre toi et moi, Greg, c'est que moi, je l'ai entendu et du coup, je l'ai.
Non, mais on va perdre du temps. Vas-y, vas-y.
3 points. 3 points pour Grégory Schneider.
Voilà. Arrêtez, sérieux.
Attention, mes petits. Je suis passé de Lille à l'OM en 2013. 2013, l'été 2013, tac, Lille, OM.
Thauvin,
non, c'est pas lui. Je quitte Marseille en 2015, pourrais revenir en 2017.
Mais.
Eh ouais, allez-y.
Cabella.
Non, c'est pas lui.
Payette.
Payette, Dimitri Payette. Eh oui, vous l'aviez ou pas?
Non,
ah, je pensais
non,
que vous l'aviez.
J'ai bloqué sur Thauvin.
Ouais, attention. Je suis passé au LOSC le temps de 14 matchs en 2017. Je suis passé au LOSC le temps de 14 matchs en 2017. Auparavant, j'étais déjà parti de l'OM en claquant la porte. Mathieu, vous avez, hein, vous n'êtes pas éliminé, hein, mon petit Mathieu.
Ouais, ouais,
reste avec moi.
Je suis entraîneur. Jamais sans ma glacière.
Je l'ai dit avant.
C'est pas.
C'est Nabil.
C'est Nabil.
Non, j'ai giclé.
Le dernier pour la route.
Oh là là, Nabil, tu me déçois.
Non, je te jure, je l'ai dit avant.
J'ai joué et entraîné le LOSC.
Rudy Garcia.
Non. C'est pas terminé, on continue, Sébastien. J'ai joué.
Ma gueule là-bas.
Et j'ai joué, je pourrais entraîner l'OM. J'ai joué, entraîner Lille. Deuxième année, j'ai joué, je pourrais entraîner l'OM. Je suis d'ailleurs né à Marseille.
Ah, mais bien sûr.
Galtier.
Bah, oui, bien sûr. Christophe. Galtier.
Il en reste ou pas là, une dernière.
Non, il en reste plus. Fini.
Non, mais une dernière.
On me dit de
rentrer. Qui c'est qui a gagné?
J'ai pas bien
gagné. C'est le petit Seb qui a gagné.
Mathieu, voilà. Nous on joue et
Coubertin.
Mathieu Dossévi. C'était votre première l'équipe du soir. Demain vous rempilez puisqu'à 19h il y aura Caen Bordeaux. Monsieur Ligue 2 sera.
Avec là-bas. Et vous savez qu'il y a la finale de la Coupe d'Espagne aussi demain soir.
Aussi
21h après sur la chaîne d'équipe.
Commentez pas.
Alors je ne présente pas, mais en tout cas.
Commentez pas.
Ils seront là.
Ok, bah voilà, la promo est passée. On vous embrasse et bon week-end sur la chaîne d'équipe donc.